Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Salut.
Et je suis aussi avec Exerve.
Hello.
Ça va, messieurs ?
Ça va,
un peu enrhumé, donc je vais essayer de pas trop parler du nez, mais ça devrait bien se passer.
C'est la période des rhumes et des gothies en ce moment.
C'est la fin de l'année, c'est ça, on y est.
D'ailleurs, on s'était demandé un petit peu si on allait vous faire une émission un peu spéciale. Est-ce qu'on allait faire un bilan de l'année ou un truc comme ça? Mais on s'est dit que finalement, vous allez avoir ça dans tous les autres podcasts, puisque bon, c'est quand même ce qu'on va retrouver, je pense, dans la majorité de la presse. Et du coup, on s'est dit, bon, on va continuer à faire ce qu'on fait. On va rester à se focaliser sur un jeu. Mais avant, j'ai donné le programme. Avant, on va remercier les gens qui nous soutiennent sur Patreon. Je rappelle que vous pouvez nous donner un petit peu des sous-sous pour nous permettre de fabriquer cette émission, jouer au jeu avant tout, et je vous le dis en tant que personne qui est en train de jouer à un jeu pour la prochaine, et c'est des devoirs, voilà, je le dis.
Il y a des fois où c'est plus plaisant que d'autres.
Exactement, voilà, il y a des fois où voilà, la passion, le travail, parfois se rencontrent, et puis des fois, elles ne se rencontrent un petit peu. Donc merci à tous les gens qui nous soutiennent sur Patreon, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et ça fait quand même hyper plaisir, donc merci encore une fois pour l'année, la dernière fois on a fêté notre anniversaire, mais voilà, on est super content du résultat et d'où on en est là-dessus.
Et on vous prépare une grosse année 2020 parce que côté jeux vidéo ça va être n'importe quoi, nous on a quand même pas mal de petites cartouches sympas et ouais. On sait qu'en plus l'année va nous donner largement de quoi alimenter les épisodes de la fin d'année prochaine.
Ouais, là ça fait quelques épisodes qu'on a déjà embrayé quand même sur des jeux
assez costauds,
assez intéressants, ouais. Ça me fait plaisir d'en parler. Ça va continuer. Ouais, puis, ça va pas s'arrêter.
Surtout et ça qu'on va a continuer eu, on a, aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui. Et puis on a eu une grosse année, franchement, côté jeux vidéo. Donc de toute façon, elle va pouvoir alimenter tout ce qui va se passer dans l'émission en 2020, le temps que vous fassiez les jeux, puisque je vous le rappelle, on vous les spoil de bout en bout. On remercie également Third Editions. Thank you very much, guys. Merci donc la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Est-ce qu'il y a des petites news, des petites sorties là récemment?
Ils ont annoncé. Du coup qu'ils étaient en train de bosser sur un bouquin sur Sekiro qui sortira au mois
oui,
de mars
tout hein, à fait,
parce
tout
que comme Sekiro a gagné le jeu de l'année au Game Awards avec Geoff Keighley, du coup bah voilà, ils ont dit eh bah, ouais. Ça tombe bien, nous aussi on avait anticipé le truc et voilà.
Effectivement, donc il y aura un bouquin sur Sekiro qui viendra un petit peu compléter là. Il y en a déjà deux sur
ouais c'est ça, il y avait eu deux Dark Souls par-delà la mort et du coup bah, ils sont partis là-dessus.
Voilà, bah on les embrasse, on les remercie pour leur soutien. Et puis nous, on va pouvoir commencer notre épisode donc sur Outer Wilds. Je spoil, c'est notre GOTY, on peut le dire. Je pense que au sein de cette équipe, c'est notre GOTY. On va tenter un petit peu d'expliquer en quoi. Et puis surtout, on vous prévient une nouvelle fois que vraiment, on va le spoiler à fond, un peu à la manière d'Obradine ou de Her Story. C'est un jeu dans lequel les réponses se trouvent dans l'histoire, on va dire. Résoudre le jeu, c'est résoudre son histoire, c'est comprendre son histoire. Donc forcément, là, ce que vous allez entendre après le générique, si vous ne l'avez pas fait, ça va vous donner de grosses, grosses clés pour avancer dans le jeu. Et même si il n'y a pas beaucoup de jeux pour moi qui se gâchent vraiment en les racontant, là, celui-ci,
ouais,
il en fait
partie.
Quoi.
De ces rares jeux où, effectivement, tout ce qu'on va vous dire va être des solutions pour les énigmes et le puzzle qui est le jeu Outer Wilds. Donc on sait qu'il y a pas mal de monde qui nous écoute sans avoir fait les jeux. Donc ça nous fait super plaisir parce qu'on ne s'y attendait pas quand on a lancé l'émission il y a plus d'un an maintenant. Mais par contre, vraiment, pour cet épisode-là, soyez sympa, rembobinez, et simplement dites-vous que faites le jeu si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Nous, c'est pas grave, l'épisode, il est là, hein, il va pas bouger, il reste au frais.
On embrasse les gens qui nous écoutent en 2020, en 2021, en 2022 peut-être.
Ah oui,
allez, je vais
ah oui, big up si vous êtes là en 2003, tu sais, comme sur les commentaires YouTube des vieilles chansons. Like si tu écoutes ça en 2019.
Qui écoute ça encore en 2019 C'est vrai qu'il y a pas mal de ça. Donc voilà, bah, likez si vous nous écoutez encore en 2020, en 2021. Et puis nous, bah, on va se lancer dans Outer Wilds après une magnifique musique sélectionnée par Maxime.
Thank you.
Très bien. Tu la mettras, tu sais, à la fin de l'épisode, une connerie.
Alors, Outer Wilds qui est sorti donc le 29 mai 2019 sur PC, et ensuite il est sorti le jour d'après sur Xbox One, et puis je crois qu'il est arrivé sur PS4 depuis,
ouais, il y a quelques semaines. Ouais.
C'est pas en octobre.
Octobre déjà,
ouais, je crois.
Mais tout est allé trop vite. La fin d'année, et moi je l'ai pas vu passer.
La vie passe trop vite, Benoît, c'est vrai. On le sait. Hein. Ah, voilà, dans 22 minutes.
C'est la fin.
Il va sortir aussi, je pense qu'il va arriver sur Steam, enfin, il va arriver un peu partout l'année
ouais,
prochaine.
Bah, du coup, il y avait un an d'exclusivité, on imagine, ouais, donc mai, juin, ça devrait arriver sur Steam.
Et alors, moi, c'est un jeu qui pour moi est un peu sorti de nulle part, c'est-à-dire que je connaissais pas du tout le jeu quand il est arrivé, mais en fait, c'est un projet qui date de. Qui a été lancé en 2012, puisqu'en fait, il faisait. Vraiment à l'origine partie de la thèse de Alex Beauchamp, donc c'est son créateur, un américain, de la thèse pendant qu'il faisait, en fait il était étudiant, et pendant sa thèse il avait créé une espèce de petit système solaire, et c'est ça qui a été la base de Outer Wilds. Ça s'appelait comment le jeu à la base?
C'était Space Worthy, si
voilà.
Worthy. Like where, okay. et si je dis pas de bêtises, le thème du truc c'est quand même world building.
C'était exactement la matière de sa, ouais, de sa thèse, c'était ça, c'était sur le world building.
Ouais. En fait, il fait partie de l'université du sud de la Californie, USC, et ils ont tout un, je crois que c'est un bachelor ou un master, je sais plus, qui est dédié vraiment aux nouveaux médias, cinéma, jeux vidéo, machin, et dans les études de jeux vidéo, ils ont une partie level design, comme il y a dans quasiment toutes les écoles.
Je me demande si c'est pas Genovation qui avait fait un peu le même...
De toute façon, quand tu regardes, tu sais, tu vas sur leur site, tu vois le pedigree, et tu vois les gens qui en sont sortis, c'est les alumni, comme ils aiment bien le dire, t'as quand même effectivement pas mal de monde, mais bon, la Californie, voilà, c'est forcément lié aux jeux vidéo.
Il a bizuté Alex Beauchamp et on ne le sait pas.
Et il lui a fait des trucs,
il a fait
pas trop.
Bois, c'est des trucs comme ça, vous avez,
Ah oui, j'ai tout un tas d'images, c'est de films pour teenagers.
Bah
qui
oui,
arrive.
C'est ça. Oh là là. Pour moi, c'est terrible. Ça, mon image du bizutage. Mais alors, pour revenir donc sur Outer Wilds, donc c'est un jeu qui a connu donc une longue gestation. Les dates clés, c'est donc 2012, le début du projet.
2011 même. Hein.
2011 même.
Ouais, c'est même 2011.
Et dans sa tête, c'était peut-être même en 2010, c'est possible. Et la deuxième grosse date clé qui est importante, c'est en 2015, ils ont gagné donc deux prix, je crois, à l'IGF. On en parlait il y a quelques temps, donc l'Independent Game Festival. Il a gagné, je crois, Excellence en Design.
Ouais, et puis le prix.
Le grand prix qui est lié à un nom. J'ai oublié le nom de la personne, mais voilà, c'est le grand prix. C'est pas le grand prix du jury, mais c'est un peu la même chose.
Et à partir de ce moment-là, tout est devenu un peu plus sérieux pour eux. Ils ont rejoint un studio qui a été fondé par Masi Oka, qui est connu pour être un acteur dans la série Heroes, c'est ça ?
Ouais,
c'est ça.
Qui joue Hero.
Voilà. D'accord, ok, ouais. J'ai pas du tout suivi, donc je ne savais pas. Donc, okay.
Et donc en fait, moi en regardant un petit peu son parcours à Masi Oka, tu vois, je me suis dit, c'est rigolo parce qu'il avait juste un peu le nez creux, parce qu'il a fondé en fait le studio Mobius Digital après avoir rencontré l'équipe de ce qui s'appelait avant la Team Outer Wilds, hein, bêtement, parce qu'ils étaient à 3 ou 4 à bosser dessus après la thèse d'Alex. Mais en fait, au départ, Masi Oka, c'était un graphiste, c'est un artiste qui a bossé chez ILM, hein, Industrial Light and Magic, qui est juste le studio d'effets spéciaux de LucasArts, donc évidemment c'est juste le meilleur endroit du monde quand tu es graphiste pour travailler, et du coup je ne savais pas, voilà, donc c'était la petite anecdote, merci IMDB pour cette petite info.
C'est pas juste un acteur comme ça qui se dit « Oh, j'aime bien le jeu vidéo, je vais mettre des thunes dedans », c'est quand même quelqu'un qui connaît la partie technique et qui du coup qui avait décidé de se lancer dans un studio, je crois. Alors je suis pas sûr que c'est pour Outer Wilds, il voulait se lancer dans le jeu mobile ou un truc comme ça avant, et il est tombé sur l'équipe d'Outer Wilds et ils se sont dit « Bon bah allez, on va tenter de faire un truc ensemble ». Je crois qu'il y a eu un financement participatif sur Fig, ouais, il me semble. Ouais. Et puis, ensuite, les droits ont été récupérés par nos chers amis d'Annapurna Interactive. Vous commencez à les connaître si vous suivez Fin du Game. Et,
quelle année, Annapurna?
2016, je crois. Qu'ils ont récupéré le
bébé. A priori, après l'IGF, ils ont dû commencer à rentrer en discussion avec plusieurs publishers. Ouais. Et c'est Annapurna qui a dû leur proposer le deal le plus sympa.
Parce que, vous pouvez regarder sur Wikipédia, les jeux qui ont reçu le prix IGF, en général, vous les connaissez. C'est des jeux qui sont devenus quelque chose.
C'est ça. C'est Her Story, Céleste, tous ces jeux-là, on en parle régulièrement, nous, l'IGF, c'est quand même un peu le gros prix, hein, c'est pas les Game Awards, clairement, c'est un truc un peu plus sérieux.
Bim, clash
C'est pas sponsoré par Subway, l'IGF.
Non, le Fresh Indie Game, par Michael Hunt, quoi. Bref. En tout cas, le deal avec Annapurna, ça leur a permis tout simplement d'aller un petit peu plus loin, parce que le jeu existait déjà, en fait. En 2015, ouais, il y avait une alpha qui avait été donnée sur Fig. Donc Fig, c'est la plateforme participative de Double Fine, qui est le studio... Bon, je vais pas refaire toute l'histoire. Mais bref, du coup, ils avaient donné cette alpha-là, et le jeu était déjà quasiment identique à ce qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, c'est vrai qu'en termes de visuel, c'était quand même beaucoup moins abouti, la DA était moins travaillée. Le fait qu'ils aient pu avoir les sous d'Annapurna, du Fig, etc., ça leur a permis tout simplement d'aller un petit peu plus loin. On sait qu'Epic est arrivé aussi dans la tambouille à un moment donné. Je pense qu'Epic Games, en fait, ont dû les contacter probablement un an et demi en amont de la sortie du Epic Game Store.
Ils ont leur deal avec Annapurna.
Donc, tout a dû être négocié, voilà, tu vois, un peu dans la file.
C'est bien déroulé pour eux. Parce que moi, j'avais lu une interview en 2015 et la productrice qui travaillait sur le jeu, alors je me souviens plus de son nom, je suis désolé, elle expliquait que voilà, ils étaient impatients que la sortie arrive alors que c'était en 2015. Ils look forward. C'est vraiment arrivé beaucoup plus tard.
Sachant que le jeu devait sortir en 2018 parce qu'il avait été annoncé à l'E3 2018 pour une sortie soon. Et finalement, je pense que Epic Games a dû arriver encore une fois en disant « Attendez les loulous, nous on arrive en décembre. » Et ils ont dû dire « On vous met une petite rallonge, on vous met l'exclusivité d'un an, machin. » A priori, ça a permis tout simplement à l'équipe de Polish.
Est-ce que c'était pas une première grosse exclue d'Epic Games? Moi, je crois que c'est le jeu qui m'a fait installer le launcher d'ailleurs.
Moi, après, je l'ai installé en Day One parce qu'il y avait Hades qui est sorti dessus, le dernier Super Giant auquel je joue beaucoup. Mais Metro Exodus, il est arrivé en février-mars. Division, tout le monde s'en fout, mais il est arrivé en février.
Ouais, d'accord.
Rocket League pour PC aussi, qui était passé chez Epic assez tôt, je sais plus
ça
trop.
Ça s'est fait dans le courant de l'année. Enfin, il s'est passé pas mal de choses. Ça fait déjà un an au moment qu'on enregistre.
Ça a été quand même un gros changement un petit peu dans la sphère sur le
paysage.
Dans le paysage de distribution ludique. Mais oui, donc c'était une bonne grosse exclue, et puis le jeu est sorti donc en 2019, cette année, et ça a été... c'est vraiment un jeu qui a fait son succès avec le bouche à oreille. Je crois que là, c'est vraiment encore un exemple typique de ce genre de communication, parce que moi, j'en ai vraiment entendu parler via des influenceurs de qualité. Je salue évidemment Thomas de Game Spectrum, je salue aussi Exerve, qui est juste devant moi. Donc c'est vraiment par ces gens-là que j'ai pu en entendre parler. Et tout au long de l'année, les médias en ont assez peu parlé finalement. Là, on commence à beaucoup en entendre parler, mais ça s'est vraiment fait.
C'est ces trucs qui se sont faits un peu a posteriori, parce que il est sorti. En fait, faut savoir que c'est au niveau de la presse, c'est une période qui est compliquée parce que tout le monde est crevé, tout simplement à cause de l'E3. Le jeu est sorti une ou deux semaines après l'E3, donc en général.
C'est sorti en mai.
C'est la mauvaise période entre guillemets, parce que tout le monde est occupé.
Dans le jeu vidéo, est-ce qu'il y a une bonne période aujourd'hui?
Il y en a des meilleures. Et si tu t'appelles Kojima et que t'es pote avec le mec qui des Game Awards, c'est une meilleure période encore.
D'accord, très bien.
Il faut le noter, c'est important. Non mais voilà, c'est une période qui est compliquée. C'est vrai que juste avant l'E3, il y a pas mal d'attentes autour des annonces, des choses comme ça, et la sortie d'un énième jeu indépendant quand il en sort 150, 180 par semaine sur Steam, c'était sur Epic, ils ont eu un petit peu plus de visibilité, mais clairement ça a été le bouche à oreille. Moi, si j'avais pas vu ce tweet de Thomas de Game Spectrum, je pense pas que j'aurais entendu parler du jeu avant peut-être quelques semaines. Ma vie aurait complètement... T'imagines ? J'aurais pas eu le jeu de la vie, quoi.
Et ça rejoint un petit peu ce qu'on avait pu dire avec Undertale aussi, au dernier épisode, où c'est un jeu, quand il sort, tu sais pas s'il va avoir un grand succès. C'est finalement, quand tu vois qu'il y a une grosse communauté qui adore le jeu, là, ça devient logique de le tester.
Même si je pense qu'on n'est pas dans les proportions d'Undertale, quand même.
Il n'y a pas eu cette espèce de fandom qui s'est créé spontanément. Bon, c'est normal, il n'y a pas non plus les personnages auxquels
s'attacher.
C'est pas tout à fait le même délire. Mais par contre, clairement, il y a eu beaucoup de gens qui l'attendaient. Alors, il y avait du monde qui l'attendait, parce que quand tu remontes un peu les posts Reddit de l'époque du Fig et tout, il y avait des gens
très niche. Le jeu était déjà bien connu. De toute façon, il avait gagné un IGF, donc clairement dans la sphère, dans l'industrie, on en entendait parler. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, j'étais complètement passé à côté.
Mais bref, on l'a fait. C'est vraiment une énorme expérience. Moi, ça fait partie des jeux. C'est mon jeu de l'année, certes, mais ça fait surtout partie des jeux les plus fous que j'ai fait dans ma vie. Donc, ça me fait très plaisir de jouer aux jeux vidéo en 2019. Et a priori, ça a été le cas pour pas mal de monde, parce que malgré tout, malgré les grosses cartouches qu'il y a eu cette année, parce que on le rappelle, Disco Elysium, Control, Death Stranding, Sekiro, machin, vous les avez vus passer, tous ces jeux-là. Outer Wilds a quand même réussi à se faire sa petite place. Et moi, ça me fait super plaisir.
Même s'il a été boudé au VGA, et puis comme ça, on met une dernière cartouche et puis c'est terminé.
Oui, non. parlé. Ah, même moi, c'est toi qu'on a parlé. Hein. Moi, voilà, j'arrête. Hein.
Alors, comme d'habitude, on va se lancer dans l'histoire du jeu, histoire de se remettre un petit peu dedans. Encore une fois, c'est un jeu à la narration un petit peu archéologique, c'est-à-dire que toute l'histoire du jeu se déroule avant notre intervention en tant que joueur dans cet espace-là, puisque, en fait, l'histoire va se terminer dans 22 minutes quand on commence le jeu, alors que finalement, il s'est écoulé plein de siècles et d'événements divers. Et notamment, vraiment, tout au cœur du jeu, on se concentre sur cette espèce que sont les Nomai. Donc, c'est une civilisation extraterrestre. Ils ont trois yeux, donc voilà. Hein, déjà,
ils sont pas comme nous, parce que nous, on en a quatre.
Voilà, exactement. C'est pas les mêmes que nous. Et c'est une race d'explorateurs, de scientifiques. Et ces gens-là, ils couraient après ce qu'ils appellent l'œil de l'univers, qui est une espèce d'entité céleste, volatile, impossible à attraper, enfin, qu'ils cherchent à rejoindre. Et dans leur quête de cet œil, eh bien, ils vont se gaufrer dans notre univers. Leur vaisseau va s'écraser sur une des planètes, qui deviendra après son bronze. Et il y a trois modules de sécurité qui vont se dispatcher comme ça dans cet univers. Et puis, bon an, mal an, comme leur vaisseau ne fonctionne plus, ils vont devoir s'installer dans cet univers et ils vont créer des colonies dans les diverses planètes qui sont dans cet univers.
Alors, ils arrivent à communiquer entre eux. Hein. En fait, c'est un tout petit système solaire, hein, finalement, mais bon, ils arrivent à continuer de communiquer. Et ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, on voit que cette civilisation-là, ils perdent pas le nord. Tu vois, ouais. Ils veulent retourner à leur objectif, qui reste de trouver l'œil de l'univers. Et pour ça, ils vont devoir simplement réparer leur vaisseau mère, hein, puisque du coup, lui, il est bloqué dans son bronze. Mais finalement, ils vont commencer à arrêter de chercher cet objectif-là pour justement étudier l'œil de l'univers depuis l'endroit où ils sont, en se disant contre mauvaise fortune, faisons bon cœur.
Sachant que dans un premier temps, ils doivent s'habituer à l'environnement, parce que pas de bol, ils sont quand même écrasés dans les coins les plus hospitaliers. T'en as qui sont sur Cravisier, qui se prennent des météorites, et les autres qui sont sur Sablier Rouge, qui ont des tonnes de sam qui leur tombent sur la tronche. Donc il y a eu un petit temps d'adaptation quand même dans un premier temps.
Mais du coup, ils sont quand même installés dans cet univers. On le voit d'ailleurs sur Sablier Rouge, il y a des écoles, il y a sur Gravité, il y a toute une ville suspendue qui est donc à l'intérieur de la coque de Gravité, puisque comme tu l'as dit, ça se prend des grosses météorites sur la tronche. Et ils vont essayer donc de mettre diverses stratégies pour essayer de choper ce fameux œil de l'univers. Et ça va se mettre en place via diverses façons. Il y a la construction d'une espèce de grosse station orbitale autour de Léviat, qui va en fait servir à tirer une espèce de sonde qui serait supposée aller chercher les coordonnées de l'œil de l'univers. Le souci, c'est que cette sonde, il y a plusieurs problèmes, c'est que comme on ne sait pas où est l'œil de l'univers, il faut pouvoir tirer plein de sondes de manière aléatoire pour espérer tomber dessus. Et il faut aussi l'alimenter. Et ça va se faire via la seule source d'énergie qui pourrait alimenter ce tir-là, c'est une supernova.
C'est ça le plan, c'est de faire péter le soleil pour pouvoir envoyer la sonde. Mais du coup, comme ils ne sont pas suicidaires, ils ont mis au point donc une autre technologie. Donc c'était le projet Sablière Noire. Alors, ça va être le moment
scientifique.
Asseyez-vous, si vous êtes dans votre bain, tenez-vous bien.
Alors, je ne sais plus exactement comment le lien se fait, mais il y a déjà en premier temps un phénomène physique qu'ils ont observé avec les trous noirs et les trous blancs, qui sont donc des portes de téléportation. Et en fait, quand on prend un trou noir et qu'on arrive dans un trou blanc, ils se rendent compte que en fait, il y a une deuxième version de la personne qui arrive avant, en fait, dans le trou blanc, avant qu'elle soit aspirée par le trou noir. Et alors bon, voilà, j'ai tout compris, mais je vais vous passer les explications, évidemment.
Scientifiques.
Mais ils arrivent à extrapoler, en fait, ce phénomène un peu à 22 minutes. Ils comprennent qu'avec suffisamment d'énergie,
oui, on peut ça, avec, faire... Oui, c'est ça, avec leur technologie, si on l'alimente suffisamment, on peut étirer cette espèce de laps de temps avec les troubles en trou noir. Et grâce à la technologie du supernova, ça leur donne à peu près 22 minutes,
et
ça.
Du coup, alors, pareil, avec des procédés qui nous dépassent sans doute, ils en déduisent qu'on peut, en fait, enregistrer des données dans des masques et les envoyer 22 minutes dans le passé. Voilà, je pense qu'on va pas expliquer plus que ça. On va
partir. Dès qu'on parle du passé, du temps, c'est compliqué. C'est la merde.
C'est le bordel. Ouais. Et comme on le disait, la sonde, il faut l'envoyer dans plein d'endroits différents. Donc une fois qu'une sonde est envoyée, ce qui sous-entend que le soleil a explosé,
exactement,
parce qu'on rappelle que c'est la source d'énergie, En fait, ils vont enregistrer les coordonnées de la sonde et ensuite les envoyer 22 minutes dans le passé pour tout simplement dire, du coup, alors est-ce que c'est un univers parallèle, est-ce que c'est le même, on ne sait pas, il n'y a pas d'explication vraiment sur la façon dont fonctionne le temps, mais il y a une timeline qui va recevoir les coordonnées, qui va savoir si la sonde qui a été envoyée
elle a trouvé oui ou non, l'œil, ou pas, l'œil de, voilà, l'univers. De l'univers, et ensuite, bah, hop, c'est reparti pour une boucle, puisqu'on est revenu 22 minutes, donc après, bah, à chaque fois que le soleil explose, ça fait partir une sonde, on revient 22 minutes en arrière, il s'écoule 22 minutes, le soleil explose et c'est reparti, ça relance.
Sachant qu'on dit tout ça, mais ça c'est dans notre temporalité en tant que joueur, parce qu'en réalité les Nomai, ça s'est pas passé comme ça malheureusement, parce que faire exploser le soleil, bah, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, donc il devait tirer une espèce d'énorme missile ou de provoquer son explosion d'une manière X ou Y, ils n'ont pas réussi.
Ouais, ils se sont rendus compte
qu'ils avaient pas, ils n'allaient pas pouvoir le faire. Par contre, ce qu'ils savaient, c'est que le soleil dans lequel, à côté duquel ils s'étaient retrouvés, allait mourir dans peu de temps à l'échelle cosmique, donc quelques milliers d'années, et ils se sont dit, on va simplement attendre que ça soit le cas. Malheureusement pour eux, il y a eu une petite invasion qui s'est passée. Il y a la matière fantôme, qui est une matière donc qui n'existe pas, qu'on ne peut pas voir ni quoi que ce soit, mais si tu marches à l'intérieur, la densité est telle que ça fait que ça te tue, et elle apparaît donc via un météorite, un astéroïde qui rentre dans
l'univers, quoi.
Dans ce système solaire, et ça les tue finalement, et c'est comme ça que les Nomai meurent.
Oui, c'est ça, il y a une petite même expédition qui est organisée pour aller sur cet intrus, ils vont à l'intérieur de l'intrus, ils creusent là dedans, et en fait ils se rendent compte qu'ils tombent sur cette espèce de matière fantôme qui est concentrée et qui est très instable, et ils ont à peine le temps de sortir de l'intrus que bim, ça pète, ça crée une espèce de supernova mais fantôme, on va dire, et du coup ça les tue tous.
Quand l'intrus a frôlé le soleil pour la première fois, ça c'est quelque chose qu'on doit faire en tant que joueur pour pouvoir rentrer dedans, il y a la couche de glace en fait qui fond, et à l'époque ça a répandu donc cette matière fantôme, et ils sont tous morts.
Et du coup, le jeu se passe donc, on ne sait pas, X temps après cette catastrophe-là. Il se passe 22 minutes avant que le soleil meure. Et nous, notre personnage, qui est donc d'une autre race, est-ce qu'il y a un nom
non,
sur la race?
Non, ils n'ont pas de nom. Ouais, c'est les Atreboisiens.
C'est les Atreboisiens.
Voilà, tout à fait. Bon, c'est le gentilé des gens d'Atrebois. Voilà.
Parfois, ils s'appellent le Petite Pierre ou des trucs comme ça. Il y a
un vocabulaire de cailloux. Effectivement.
Il y a des petits noms sympathiques. Ouais.
Et donc notre personnage, on comprend très vite que c'est sa première journée d'expédition. Il va partir, il va enfin décoller dans l'espace, rejoindre un petit peu tous les gens de cette espèce qui sont partis dans l'espace, parce qu'on est aussi des explorateurs. On va se balader un petit peu sur notre planète natale, on va récupérer les codes de lancement, et ça y est, ensuite on part dans l'exploration. Et toute l'idée... on va le comprendre, on va mettre du temps à le comprendre, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment on résout cette idée de supernova, est-ce qu'on peut empêcher la fin du monde, est-ce qu'on peut trouver l'œil de l'univers, autant de questions que nous essaierons de solutionner tout au long du jeu.
On peut parler de la fin, du coup. Aussi.
On peut parler de la fin, effectivement. On se rend compte que malheureusement, ce supernova, ça va pas être possible. Et on arrive à réunir finalement tous les éléments qui nous permettent d'aller sur l'œil de l'univers, puisqu'on arrive à récupérer les coordonnées, puisque après je ne sais combien de boucles, la sonde a bel et bien trouvé les coordonnées de l'œil de l'univers.
3500 et quelques. Je sais plus.
Merci, Max.
J'ai bien dit 3500 et quelques. Tu vois, c'est la précision.
La précision éthérée.
Vous savez, la science, c'est quelque chose de précis. Voilà. Donc nous, évidemment, on rend hommage à nos amis scientifiques qui nous écoutent.
À une vache près, c'est 3500.
À l'échelle cosmique, après tout.
Oui, je veux dire, ça se joue pas à ça. Mais ça se joue quand même à ça, puisque on trouve les bonnes coordonnées en récupérant ce qu'ils appellent un warp core. Alors, je sais plus comment on le dit en français. Eh bien, nous avons appelé ça un cœur de téléportation, n'est-ce pas, qu'on récupère dans le projet Sablière Noire, qui était en fait qui alimentait tout ce système de reboot et de renvoi d'informations dans le passé. On récupère ce cœur-là, on retrouve le vaisseau qui était écrasé au milieu de son bronze, on l'alimente donc avec ce warp core, puisque ça alimente de la même façon, on rentre les coordonnées, et là, zou, à 2001 l'Odyssée de l'espace, on fait une espèce de voyage dans l'interdimensionnalité, et on se retrouve donc sur l'œil de l'univers, et sur l'œil de l'univers, il se passe un truc un peu bizarre, enfin... C'est difficile à expliquer, mais en gros, on va se retrouver avec les différents personnages qu'on a croisés à la fin du jeu, et on va se rendre compte qu'il faut accepter la fin de notre univers pour en créer un nouveau à partir de cet œil. Tout ça est un petit peu métaphorique.
Grâce au pouvoir des marshmallows et de la musique.
Exactement.
C'est ça. Bah, c'est ça, en fait, on apprend, donc on avait dit que notre soleil meurt, mais en fait c'est le cas de tous les soleils, en fait, de toutes les galaxies. C'est le mec qui joue du tambour là, sur Sablier Rouge qui nous l'apprend. Et c'est confirmé, une fois qu'on est sur le lieu d'univers, on voit toutes ces galaxies en fait, miniatures autour de nous qui s'éteignent petit à petit. C'est vraiment la fin de la vie, en fait, de tout. Et en fait, on va recréer une sorte de Big Bang où on va réunir un petit peu les différents instruments. C'est un peu à mettre du sel, du poivre et plein de bonnes choses. Et boum, on va recréer l'univers. Et puis ça se termine. Mais et comme tu dis, il y a ce côté un petit peu acceptation. Je le ressouligne parce que quand on en avait parlé la première fois, je m'en souvenais plus. Mais quand on parle un peu à tous nos anciens potes, entre guillemets, en tout cas ce qui les représente maintenant, parce que je doute que ce soit vraiment eux, mais ils ont tous une petite ligne de dialogue en mode le voyage était sympa, mais maintenant c'est la fin. Donc oui, il y a vraiment cette acceptation de la fin. Mais ensuite, on recrée donc le Big Bang, et à la fin, on voit une sorte de petit artwork.
On voit une nouvelle race. On voit que ça se passe sur combien de milliards d'années plus tard, et on entend du coup, au niveau de la musique, d'autres instruments que ceux qu'on entendait depuis le début, qui nous indiquent qu'il y a un autre groupe d'aventuriers, quelque part, dans des milliards d'années, qui refera ce que nous, on a fait là, et c'est le cycle éternel.
Les Nomai se posaient une question, c'est qu'est-ce qui se passe quand un être conscient, en fait, arrive sur l'œil de l'univers. On a un peu une semi-réponse, du coup, on devient une espèce de dieu ou d'entité qui va être capable de recréer l'univers.
Et bien voilà, c'est pour une fin qui est quand même assez qui m'a encore une fois beaucoup fait penser à 2001 l'Odyssée de l'espace, parce que on traverse en fait des choses visuellement, il se passe quelque chose qu'on a du mal à comprendre, en fait, c'est-à-dire que les formes, les couleurs, tout ça nous brouille complètement notre discernement. Et il y a ce côté-là un peu, alors je spoil aussi la fin de 2001 l'Odyssée de l'espace, quand il voyage comme ça, il y a une espèce de longue séquence avec plein de couleurs qui est complètement folle, et ensuite on arrive sur cette espèce de lieu qui n'en est pas vraiment qui est à la fois dans le temps et dans l'espace, on sait pas vraiment ce que c'est, et on recrée cette espèce de Big Bang, et il y a tout ce côté un peu poétique effectivement autour du feu qui nous renvoie finalement au feu auprès duquel on se réveille à chaque fois à faire cramer nos petits marshmallows, quoi.
Ouais, c'est une fin qui a pu un petit peu surprendre si on compare à la majorité des autres jeux vidéo où tu peux t'attendre à ce qu'on sauve l'univers, ouais, en fait, ouais, qu'on vraiment, sauve le soleil, limite qu'on ressuscite les Nomai, tu vois, c'est le genre de happy ending auquel on est habitué, et là, c'est un peu c'est un peu doux amer, du coup, où vraiment, il y a cette acceptation de la fin, que c'est fini, mais on va quand même recréer l'univers après, mais au final, les gens, enfin, tous ceux qu'on a connus sont quand même morts, quoi.
Oui, sachant que de toute façon, ce problème de supernova, quand on se réveille pour la première fois après cette. Donc, on se lie à une espèce de statue. Hein, c'est pour ça que notre personnage, parce qu'on l'a pas expliqué, notre personnage en fait rencontre une statue Nomai, une des statues qui est reliée à Sablière Noire. Et c'est pour ça qu'en fait, que quand la boucle recommence, on se souvient de ce qui s'est passé dans la boucle précédente. Et on peut se dire effectivement que la solution, la fin du jeu, ça va être d'empêcher cette supernova. Parce que d'ailleurs, le jeu ne donne aucun objectif. Si ce n'est vas-y décolle et fais ta live dans l'espace au début, quoi.
Non, mais c'est vrai que c'est important de dire qu'on n'a pas d'objectif, parce que du coup le jeu en fait nous donne jamais réellement, c'est nous qui allons nous créer nos propres objectifs grâce à la recherche de la connaissance, et finalement cette réponse là moi elle m'avait pas tant choqué que ça. C'est vrai que j'ai lu beaucoup de gens, alors sur le Discord du coup pas mal de monde en avait discuté, le fait que la fin par exemple elle était surprenante, elle avait déçu, elle était bien, pas bien, enfin ça a fait réagir. Et c'est vrai que c'est souvent un aspect des jeux vidéo qui est souvent écourté par manque de moyens, hein. Là la fin elle dure quand même relativement longtemps, il y a vraiment tout un truc qui se passe autour de là, même un petit peu de gameplay, parce que on doit rejouer encore une fois quelques temps avec les mécaniques qu'on avait apprises jusque là. Il y a ce petit concert de banjo autour du truc du feu avec les chamallows, etc. Donc ça donne vraiment, pour une fois, ils ont énormément travaillé leur fin, et en plus de ça ils nous mettent pas le happy ending habituel. Donc je pense que c'est pour ça que ça marque aussi autant les gens, parce que la fin on voit des trucs incroyables. Moi la séquence, tu parles des couleurs là dans Odyssée, c'est quand tu sautes dans l'œil de l'univers, que t'arrives enfin et que tu sautes, et là tu te retrouves vraiment entre, tu vois, les filaments de l'espace. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a cette espèce de, c'est tout violet, un peu mauve, un peu noir, et on voit tout un tas de trous et d'œils de l'univers, de milliards d'autres œils de l'univers autour de nous, et c'est vraiment gigantesque. Pendant quelques secondes, ça fait partie de ces jeux, je trouve, qui nous donnent une idée de l'immensément grand. C'est vraiment l'aspect macro des choses, et ça marche tellement bien. Enfin, ça fait partie de tous ces moments où moi j'avais jeté l'heure, le souffle coupé, parce que c'est incroyable ce qu'on
et
voit.
Parce que physiquement, ça nous dépasse en fait. Oui. C'est-à-dire que ce qu'on voit, on n'arrive pas à le comprendre. C'est cette espèce de grand inconnu qui nous on est au milieu de ces espèces de trucs, Et on sait qu'il n'y a pas de réponse derrière ça parce que ça nous dépasse notre entendement et notre appréhension du monde. Quoi.
C'est comme ça que moi j'interprète un peu ce qu'on voit autour de nous, parce qu'on arrive aussi, on apparaît dans le musée, on revient dans le musée du début du jeu, on revoit donc les personnages comme tu le disais, et pour moi c'est le personnage qui se raccroche à ce qu'il connaît en fait. C'est un peu comme avec 2001, tu vois, c'était un peu cette notion que quand t'arrives à un moment de connaissance ultime, en fait, ça te dépasse et tu comprends pas ce qui te passe, ton cerveau peut pas organiser ça, et du coup, tu métaphorises ça avec des choses auxquelles tu peux te raccrocher.
Et après, c'est Lovecraft et tu pars sur Aya.
C'est un peu ça.
C'est ça qui s'y passe, normalement.
Ah oui, d'accord.
Ça, oui, c'est
les épisodes de fin du game qui se relient entre eux.
Sur le lore étendu de fin du game. Et donc, je repars un petit peu sur cette idée de non-objectif, parce qu'on va commencer un petit peu à parler de comment, justement, le jeu met en place toute cette recherche de la connaissance. On démarre le jeu dans une zone de tuto qui, moi, m'a fait pas mal penser au plateau du prélude, parce qu'en fait, dans cette petite zone de tuto, il y a tous les éléments en fait, dont on va avoir besoin pour jouer avec le jeu. Il y a d'abord l'oscilloscope, donc cette espèce de petit instrument qui nous permet en fait, de repérer d'où viennent les sons et de nous diriger en fait, jusqu'à eux. Il y a les fameux cristaux qui nous permettent de marcher contre les murs. Si tu les plaques contre une paroi, bah, hop, tu peux marcher à côté. Il y a les fameux roches quantiques. Il y a déjà la présence de ces gros cailloux quantiques qui nous donnent un indice, enfin ils nous donnent pas un indice parce qu'à ce moment-là en fait on comprend pas du tout ce qui se passe, mais qui amèneront ce qui va se passer avec la lune quantique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Il y a le petit vaisseau.
Oui, voilà, effectivement.
Il y a la petite maquette. Ouais, ça c'est relou parce qu'il est beaucoup trop puissant par rapport à son poids, donc du coup c'est pas du tout la même inertie qu'on a.
Ouais, c'est assez cartoonesque quand ça décolle. Moi ça fait un angle, tu sais, sur le côté, pff, il part sur le côté complètement.
Bah, c'est vraiment, ouais, c'est si toi tu te disais demain je vais piloter un drone, a priori ça va ressembler à ça la première fois. Hein. C'est très clairement, mais il y a tout, il y a la sonde aussi, puisqu'il y a une petite sonde qui prend des photos qui tourne en permanence autour de notre bois. Donc il y a le jeu de cache-cache, tu l'as dit, avec l'oscilloscope. On doit aussi aller réparer un vaisseau spatial en combinaison sans gravité. Ouais, donc on apprend en fait vraiment tous les trucs. Il y a la matière fantôme, puisqu'il y a un gamin qui jette des cailloux et ça le fait marrer parce que les cailloux disparaissent dans la matière fantôme. Donc bref, en fait, on arrive vraiment à tout voir. Et en plus, il y a ce fameux musée, puisque du coup, bah, notre personnage est le tout dernier explorateur, en tout cas astronaute, à faire partie du programme Outer Wilds, hein, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et à l'intérieur, il y a tout ce que les autres ont découvert avant lui. Donc, il y a un squelette de bébé sélacanthe, hein, les fameux poissons dégueulasses de Sombronce. Il y a les différents stades du soleil qui nous indiquent les couleurs. En fait, nous, on ne le sait pas encore, évidemment, mais qui montrent la supernova, comment ça va se déclencher. Enfin, il y a vraiment tout un tas de trucs. Il y a des recherches Nomai. Enfin, bref, il y a des écrits Nomai. On apprend à l'utiliser.
La première pierre Nomai, justement, qui a servi de clé à la traduction.
La pierre de Rosette, tu vois,
exactement,
à eux.
Et on est le premier à avoir un traducteur
portatif, effectivement. Oui, c'est ça la nouveauté, le gadget qu'on a en plus que les autres, c'est qu'on a ce fameux traducteur portatif, et c'est justement ce traducteur portatif qui nous permettra d'acquérir toute cette connaissance qu'on va avoir, puisque dans tout jeu on va passer quand même pas mal de temps à déchiffrer les écrits Nomai et les traduire.
Moi c'est une info que j'avais pas au début, ou je sais pas si j'avais mal lu ou lu en diagonale, qu'on était le premier, et du coup j'étais un peu, tu sais, quand j'arrivais sur les planètes, les mecs ils sont à 5 mètres au-dessus de toute une civilisation Nomai, ils sont un peu, je crois qu'il y a des trucs et tout, je disais mais t'es con ou quoi.
Pourquoi tu joues du banjo alors que...
Tu fous, t'as un traducteur, non?
Bah oui, c'est juste là, quoi.
Et donc, non seulement t'as un traducteur, mais t'as aussi ton propre petit vaisseau spatial, hein, qui est fait littéralement de bois et de scotch, parce que vraiment, ça, c'est la première fois que tu rentres dedans, du coup, quand tu commences un peu à découvrir les lieux, moi, ça m'a vraiment surpris, où tu découvres, en fait, que leur moteur, c'est juste un gros cristal de gravité qu'ils ont dû réussir à activer et désactiver. Ouais. Tu vois que le cristal, il est accroché, tu sais, par une espèce de filet au-dessus, dans le toit, qui permet d'aller à peu près dans la bonne direction, et il y a ta petite combinaison, et il y a ce fameux ordinateur de bord, mais c'est vraiment en termes de technologie, cette planète-là, elle est vraiment très rigolote parce que, en gros, ils ont accéder au voyage spatial par accident, quoi. Tu vois, parce qu'il y avait les Nomai jusqu'à présent, sinon ils avaient clairement pas la technologie pour pouvoir se déplacer dans l'espace.
Il y a déjà en fait toute cette espèce de légèreté un peu cartoonesque, parce qu'effectivement ce vaisseau qui est vraiment fait quand même de bois, et enfin c'est vraiment fait à l'arrache, c'est vraiment fait de briques et de broc. Ouais. Et quand tu rentres dedans la première fois, tu dis ok, donc ça m'emmène dans l'espace, c'est ça. Mais ils sont vivants les autres, parce que c'est vraiment compliqué.
Tu peux sentir les boulons qui tremblent.
Oui, vraiment, oui, limite c'est vraiment le tromblon, tu vois, pour voler avec.
Bah eux dans leur tête c'était un peu la NASA, enfin NASA meets hiking, tu vois, c'est un peu un mix entre randonnée et vraiment le truc.
Ah oui, dans l'esthétique, tu veux dire, oui, tout à fait.
L'esthétique, ouais, et puis même dans l'approche, tu vois, vraiment de... Bah, un peu de la science, où c'est... oui, c'est de la science avec le... bah, y a des vaisseaux spatiaux, y a un programme spatial, mais bon, c'est quand même, enfin, tu vas avec un sac à dos, des pansements, tu vois, c'est un peu.
Oui, puis il t'oublie un peu, parce que le premier que tu croises sur la Lune, tu vois, ça fait genre 40 ans que personne est venu lui dire bonjour, parce que bah, du coup, maintenant, les gens, ils ont assez de technologie pour se barrer
c'est
plus loin que la Lune. Et le mec, il est un peu dégoûté, tu sais, il est sur son. C'est ça, il est sur son petit rocking chair avec son petit feu, il est dégoûté, tu vois, parce qu'il attend et il veut te parler, il dit non, mais pars pas, reste avec moi, tu sais. Le pauvre gars, ça fait 30 ans qu'il est là tout seul, et parce que son vaisseau est à 20 mètres de là, mais a priori il doit plus marcher ou j'en sais rien, mais du coup c'est marrant parce que la première fois que tu ouvres les yeux, t'entends cette petite musique un peu folk, un peu country comme ça, et tu vois t'entends le crépitement du feu, l'autre il te dit bah vas-y mange un chamallow. c'est en termes d'accueil pour un jeu de science-fiction, c'est assez improbable.
C'est vrai qu'il y a une espèce de contraste et au fur et à mesure du jeu, exactement, ça se noue bien et tu t'y fais vraiment, et c'est ça qui donne la tonalité un peu particulière qu'a le jeu, quoi. Donc on a toute cette zone de tuto. Une fois qu'on décolle, on se familiarise un petit peu avec notre vaisseau, faut apprendre un petit peu à voler. Ça, c'est vraiment la première couche finalement d'exploration, c'est de s'approprier un petit peu tous les outils que va nous donner le jeu. Et puis la deuxième grande couche, et qui c'est vraiment le cœur du jeu, bah, ça va être d'explorer cet espace et d'essayer de comprendre un petit peu comment il fonctionne, quelles sont les lois qui régissent chacune des planètes, parce qu'il y a un vrai travail qui a été fait sur chacune des planètes pour leur donner une identité à la fois visuelle mais aussi ludique, puisqu'elles ont chacune une petite idée. Il y a Léviat qui est une espèce de planète faite d'eau avec quelques îles et des grandes tornades qui font remonter les îles hors de l'atmosphère.
Hein.
De l'atmosphère, tout à fait. Il y a Gravité qui, au moment où on est en train de jouer, elle est complètement en train de s'écrouler sur elle-même puisqu'il y a un trou noir en son cœur, en fait. Et du coup, toute l'espèce de cité nomade qui était construite à l'intérieur, elle est en train de s'écrouler sur elle-même et elle réapparaît à l'autre bout de l'univers, puisque le trou blanc ou trou noir qui est de l'autre côté, il est tout au bout de l'univers, avec la petite station trou blanc qui est juste à côté.
Oui, t'accueilles, tu sais, ils te disent « Vous êtes tombé dans un trou noir, bienvenue !» c'est super marrant parce qu'il désamorce complètement le stress.
Pas, ouais.
Toi, tu viens de flipper ta race parce que t'es tombé dans un trou noir, donc a priori, c'est pas le truc le plus rigolo de l'univers. Et là, ils t'attendent avec une petite phrase légère, genre « Ah, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde la première fois, on va vous expliquer comment revenir. » J'aime beaucoup ce côté vraiment très décalé, très léger en fait, hein, de l'expérience. Et un truc qu'on n'a pas dit encore mais qui est central dans toute la construction de ce système solaire, c'est qu'il s'agit d'un véritable système solaire qui fonctionne en permanence, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est une petite animation, un petit monde qui vit pendant 22 minutes et il se passe toujours la même chose au même moment, puisque les planètes tournent réellement autour de ce soleil, elles ont réellement une orbite, elles tournent sur elles-mêmes, enfin bref, tout est fait dans ces 22 minutes, tout est condensé, et c'est quelque chose qu'on voit dans très peu de jeux. Moi, je me souviens très bien que quand ils avaient annoncé dans No Man's Sky que les planètes allaient tourner autour des soleils, ça faisait partie des petites prouesses techniques sur lesquelles on les attendait. Alors évidemment, ça n'a pas été le cas, No Man's Sky, mais si tu te dis, c'est parce que c'était trop difficile. Et là, ils ont réussi avec un petit nombre de planètes, mais il faut vraiment que vous compreniez, vous tous qui nous écoutez, que c'est une prouesse d'un point de vue technique, parce que ça veut dire qu'à chaque fois, c'est comme dans un jeu d'infiltration, c'est un Hitman ou un truc comme ça, à chaque fois que tu redémarres, les personnages ils vont suivre le même chemin, et il y a toute une chorégraphie, sauf que là c'est une chorégraphie stellaire, hein, littéralement, puisque c'est astral, c'est beau, putain, on emploie des mots là, on va pouvoir, Célesto, non, il faut pas le dire celui-là, on n'a pas le droit, mais toutes les planètes tournent vraiment de ce soleil-là, et donc ça donne quelque chose d'unique en termes de ressenti. Ce qui est rigolo, c'est qu'au niveau des échelles, comme il faut que ça soit visitable par un, j'allais dire un humain, mais un atrovoisien,
par un joueur,
toutes les échelles, tu vois, sont réduites, donc les planètes tournent très très vite, hein, les cycles jour-nuit ça dure quelques secondes, il y a un petit côté Petit Prince, tu sais, où les planètes tournent sur elles-mêmes en quelques minutes, mais ça fonctionne finalement, on s'y fait et on va découvrir que derrière ce système-là, comme il tourne et qu'il fonctionne indépendamment de notre existence, il y a tout un tas de règles qu'il va falloir découvrir.
Exactement, parce que quand on part finalement la première fois, même la supernova, c'est-à-dire vraiment ce qui bouleverse un petit peu cet univers et qui va être au centre de toutes nos recherches, c'est quelque chose qu'on peut plus ou moins louper ou alors ne pas comprendre, parce que déjà on peut mourir avant de la voir. Moi je sais que j'ai bien passé une heure de jeu, donc j'étais mort plusieurs fois avant de voir cette fameuse supernova arriver. On peut très bien ne pas vraiment comprendre ce qui arrive à cet univers, parce que tu peux être, je sais pas, en train de de lire un truc et bim, tu meurs parce que bah, le soleil explose.
Moi, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais dans les mines là, qui sont sur Atrebois. Ouais. Déjà, j'étais à l'intérieur, donc je savais pas que c'est le soleil qui pétait. J'avais pas cette vision-là. Et en fait, je venais de ramasser un truc, une pierre par terre. Et pour moi, c'était Indiana Jones, tu vois. J'ai ramassé le truc et il y a un piège qui s'est déclenché, tu vois. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé.
Ah, mais c'est pareil, je crois que j'ai mis plusieurs cycles à comprendre en fait qu'il y avait une vraie explosion. Parce que je me suis dit, bah, j'ai dû faire une connerie, j'ai dû faire je sais pas quoi. Enfin, il s'est passé quelque chose. Il y a pas mal de fois où je suis mort, parce que je suis même mort sur Atrebois dès le début. Où, tu sais, après que t'aies chopé les codes, il y a une espèce de grue avec des troncs d'arbres. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, ah, bah, je vais essayer de l'utiliser. Et en fait, j'ai déclenché l'ascenseur, mais j'ai sauté pas au bon endroit et je me suis écrasé comme une merde. Et donc, je suis mort. Et c'est là que j'ai compris qu'on revoyait en fait les dernières minutes de notre vie. Je me suis dit, ah, c'est marrant comme système, c'est rigolo. Et évidemment, j'avais encore aucune idée de ce que ça impliquait réellement.
Ouais. Bah, c'est vrai que les premières heures de jeu, justement, elles sont. On sait pas trop ce qu'on a à faire finalement dans cet univers. On nous dit d'explorer, on va pouvoir rencontrer, on nous dit quand même d'aller voir sur la lune justement d'Atrebois, va parler mec qui est là depuis 50 ans sur sa rocking chair, mais on sait pas trop ce qu'il y a à faire et on peut passer un petit peu de temps à ne pas comprendre finalement où va être le jeu, c'est-à-dire c'est quoi l'objectif final. Et ça pour moi c'est même dans un Zelda qui est aussi très très ouvert, malgré tout t'as Bad Ganon à la fin quoi, alors que dans Outer Wilds c'est quoi l'objectif ? On sait pas vraiment quoi.
Ouais, tu vas finir par le découvrir et ça, je pense que ça a été perturbant pour pas mal de joueurs parce que tu te dis, en fait, on a acquis des réflexes en tant que joueur et joueuse de jeux vidéo qui font que on va nous donner notre objectif. On va nous dire clairement c'est ça que tu dois faire parce que bah on nous a appris qu'il y a un jeu, c'est une règle et un objectif. Mais là, en fait, l'objectif pour l'instant, on peut pas le découvrir au début du jeu. C'est trop compliqué. Tu vois, si nous le donnait, on serait pas capable de l'interpréter correctement. Genre empêcher la destruction de l'univers. Tu sais, tu te dirais genre what, c'est quoi ce jeu ? Et ça marcherait pas en fait. Le fait qu'ils aient réussi à briser cette règle-là, je pense que ça a mis mal à l'aise pas mal de gens, mais c'est finalement aussi pour ça, paradoxalement, que ça marche aussi bien, parce que quand tu vas tout simplement accepter l'idée que ben tu ne sais rien, donc ben, tu vas apprendre petit à petit en te baladant, en découvrant, etc., c'est beau. Ce serait bien, oui, les références. Hein,
je continue
sûr.
Les références geek, hein, enfin, pour continuer à titiller notre public qui a besoin de ça. Hein, on le sait, les geeks, qui sont comme ça, il faut leur donner des références.
C'est vrai qu'il y a toujours. Et les anecdotes, c'est important, les trivia, les petites trivia nulles. Non, mais du coup, tu m'as fait perdre le fil de ma conversation, mais c'est pas grave.
Désolé, je t'ai coupé. Donc, dans cette idée de ne pas savoir, en fait, d'accepter qu'on ne sait
l'idée,
pas.
L'idée, il joue avec cette règle tacite du jeu vidéo qu'on est censé avoir un objectif. Là, le fait que pour une fois, on n'en ait pas, tu vois, c'est un peu. Alors, je vais faire un parallèle avec Minecraft, c'est juste survie et puis démerde-toi et balade-toi, joue avec ton univers. C'est quelque chose finalement de très récent dans le jeu vidéo. Tu vois, j'ai pris Minecraft évidemment à raison parce que ça fait partie de ces jeux qui ont supprimé cette idée d'objectif et de fin. C'est juste amuse-toi. Sauf que là, en fait, dans Outer Wilds, ce qu'on sait pas encore, c'est que ben tout est déjà là,
oui,
tout est déjà en place.
Il y a déjà un objectif
et on va l'apprendre en, comme tu dis, en enlevant petit à petit ces couches de mystère qu'on va découvrir en se baladant à droite à gauche.
C'est vraiment un thème, même dans l'histoire, en fait, dans les thématiques d'Outer Wilds, où bah, nous, comme on le disait, on appartient à un programme spatial, et nous non plus, on n'a pas d'objectif, tu vois, même le personnage non plus, c'est juste, bah, explore, tu vois, il a son vaisseau, c'est juste, explore, et il n'y a pas de raison, en fait, derrière ça, et les nomailles, en fait, c'est pareil, c'est un peu, tu vois, l'aboutissement, en fait, de ce que nous, à ce quoi on peut aspirer. Les nomailles aussi, ils ont une technologie et une connaissance beaucoup plus grande que nous, mais c'est aussi tout ce qui les motive, c'est la curiosité, c'est juste la connaissance.
Effectivement, il faut rentrer un petit peu dans ce mood-là. Surtout que, eh bien, au début du jeu, on peut vraiment partir dans tous les sens, puisqu'il y a tout ce système solaire qui s'ouvre à nous. On est vraiment dans un mini open world, un microcosme comme ça, qui tourne constamment. Et bah, ça part un peu dans tous les sens. Il y a plein de pistes, en fait, qui vont commencer à apparaître dans notre journal de bord. On va traduire un texte ici, un autre là. On va se rendre compte, je sais pas, moi je me souviens que je m'étais posé très, très vite sur Gravité, vous savez, où il y a l'espèce de boussole qui nous montre les différentes planètes. Et quand je suis arrivé sur ce, je me dis, mais qu'est-ce que c'est, je ne comprends pas, tu vois. Et ça, c'est vraiment les premières heures de jeu, on va arriver à chaque fois devant des trucs qu'on n'arrive pas à formaliser, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'elles font là, à quoi elles servent. On peut récupérer quelques bribes comme ça, mais ça va mettre du temps en fait à tout se mettre un peu en place dans notre esprit, parce qu'en plus, bah, comme je disais, chacune des planètes a leurs règles, mais il y a des vraies petites règles cachées qui sont clés, qu'il est très important de comprendre, pardon, pour pouvoir aller en fait dans les couches aussi un peu plus profondes de chaque planète, puisqu'elles ont chacune leur mystère et qu'on ne peut pas y accéder comme ça simplement en débarquant dessus, quoi.
Le grand défi du jeu, de toute façon, c'est comment est-ce que tu racontes une histoire, en tout cas comment est-ce que tu gères une progression quand tout est accessible théoriquement dès le début. Et ouais, il y a vraiment cette notion de surface où Alex Bishum il dit en fait il y a effectivement plusieurs profondeurs et en surface on va mettre plein de questions mais abordables et qui vont pouvoir du coup nous donner des accès à certaines profondeurs. Il y a quand même, on pourrait croire que tout est mis à notre disposition comme ça, mais il y a une certaine hiérarchie quand même de l'information et surtout de l'accès en fait à ces informations.
Il y a diverses couches de connaissances quoi. Il y en a vraiment qui sont vraiment enterrées sous d'autres et il faut tisser un petit peu toute sa toile de connaissances pour parfois arriver à recapturer un truc et se dire ok, bah je peux aller là ou je peux aller ailleurs quoi.
Et c'est là, de toute façon, qu'est tout le côté génial d'Outer Wilds, c'est cette manière de construire le monde en s'assurant que peu importe ce que tu fasses, tu vas justement arriver aux couches externes de la connaissance et petit à petit, tu vas pouvoir te rapprocher. C'est comme, il faut imaginer ça comme un puzzle, c'est-à-dire qu'on te donne toutes les pièces et peu importe les premières pièces que tu vas trouver, tu vas forcément réussir à en trouver d'autres qui vont s'accrocher et à la fin, enfin, tu vas réussir à avoir l'image complète. Moi, j'appelle ça le Knowledgevania, puisque du coup, l'idée de Metroidvania ou de Metroid-like, c'est tu as besoin d'une compétences pour débloquer un accès dans un level design, hein. Tu vas apprendre le double saut, tu vas apprendre le super missile. Là, en fait, tu vas apprendre littéralement quelque chose, un aspect de la connaissance qui va te permettre d'aller un petit peu plus loin, mais dès le début, potentiellement, enfin, en termes de speedrun, c'est rigolo parce que Outer Wilds, c'est le jeu, tu peux le commencer, tu peux aller le terminer instantanément, puisque tout est là.
Quand on connaît les réponses, voilà, moi, on peut lancer le jeu et le finir, c'est bon, on sait ce qu'il faut faire, quoi. Et j'aime bien cette image de puzzle parce qu'en plus le carnet de bord est vraiment fait comme ça. Et tu sais, quand tu fais un puzzle, souvent parfois tu arrives à reconnecter 2-3 pièces et du coup tu vas te concentrer sur une petite partie du puzzle parce que je sais pas, il y a un visage, il y a un paysage et tu essaies de te concentrer sur ce paysage. Et c'est vraiment comme ça qu'est foutu le jeu, c'est-à-dire qu'il y a quelques grands mystères principaux. Il y a le mystère du vaisseau Nomai, il y a le mystère de la lune quantique, il y a quoi d'autre comme mystère ? Voilà, le projet Sablière Noire qui est aussi au centre de tout. Donc il y a ces quelques mystères et ce qui est bien, c'est que les différentes petits indices qui vont te permettre de comprendre ces mystères, elles sont dispersées dans tout le monde quoi. Donc c'est un jeu, je pense encore une fois, qui a dû perdre pas mal de gens. Et moi la première fois que j'ai joué au jeu, bon, j'étais pas dans les dispositions, on va dire, morales pour rentrer dans un truc comme ça, mais j'avais adopté l'espèce de technique méthodique de dire voilà, je prends une planète et j'essaie d'aller au bout de cette planète et ensuite je ferai une par une. Et c'est pas du tout ça la bonne technique.
Et c'est
en
pas
fait,
possible en fait. C'est vraiment, c'est un truc qui est bloqué. On en parlait, je le salue parce que j'avais fait une petite émission avec lui, là, Patrick Béja, où il voulait absolument en parler. Et c'est rigolo parce qu'il était venu sur Twitter en mode frustré, c'est quoi ce jeu, vous nous saoulez à nous parler d'Outer Wilds, machin. Parce qu'il était dans cette optique effectivement très achiever, tu vois, du joueur de jeux vidéo qui se dit, je suis à un endroit, je visite tout, je récupère tous les petits coffres, et ensuite je passe à autre chose. Et en réalité, le jeu ne fonctionne pas comme ça. Et il a suffi simplement qu'on lui réponde avec 2-3 autres personnes. Je crois que c'était Mary qui lui avait dit la même chose que moi, en disant barre-toi, va ailleurs. Si tu bloques un endroit, c'est pas grave, va ailleurs, tu vas voir, tu y reviendras et ça te passera bien. Et après, du coup, de loin, j'entendais les mécanismes dans son cerveau qui se sont bien alignés, tu vois, les petits trous qui se sont mis correctement. Et en fait, ça te permet de. Souvent, ils disent penser en dehors de la boîte, c'est think out of the box, les anglais, c'est un truc. C'est un jeu qui te permet justement de débloquer un truc dans ton cerveau et qui te permet de réfléchir autrement à quelque chose que tu maîtrisais jusqu'à présent. Quoi.
Et une fois que t'as débloqué ça, il y a plein de petites carottes en fait que le jeu met devant toi. Donc on le disait tout à l'heure, t'as tous les autres astronautes qui jouent de l'instrument et tu peux les repérer avec la radio. Ça déjà c'est une piste en fait. Si tu sais pas où aller, tu peux te dire je vais là l'harmonica, là je sais pas ce que c'est, je vais aller voir qui joue de l'harmonica.
Tu veux être un peu méthodique, tu peux fonctionner comme ça effectivement.
Et sinon t'as tout simplement le design des planètes où dès que tu ouvres les yeux, tu vois la station là qui explose. J'oublie, c'est le canon, je sais plus trop quoi.
Oui, la station orbitale.
Ouais, tu vois l'Eviat en fait, tu passes toujours autour de toi.
Tu vois l'Eviat et tu vois la sonde qui est envoyée en fait et le vaisseau qui explose. Et tout ça, c'est autant d'indices en fait ou de petites choses qui peuvent t'accrocher. Moi, j'étais allé donc au début, j'avais fait le bon élève où j'avais visité un peu Atrebois, j'ai visité le truc en orbite d'Atrebois, et après, je me suis dit, tiens, Sablière, c'est quoi ce bordel là, les deux planètes ensemble. Hop, j'y suis allé, tu vois, y a rien qui t'empêche d'y aller, juste de te balader quoi.
Exactement, ouais.
Et sinon, comme on l'a dit, un des défis c'était de voir comment hiérarchiser l'information où tout est accessible, mais t'as aussi du coup cette boucle de 22 minutes. Et puis toutes ces contraintes d'espace et tout, qui fait que le level design aussi, c'est un certain défi. Il y a une conférence de Alex Bishum, là, je ne sais plus exactement quand c'est, mais il va faire une conférence à
la prochaine GDC en 2020.
C'est ça. Et lui, il considère que, c'est toujours des belles formules, hein, mais il considère que le level design, c'était en 4 dimensions, il l'envisageait comme ça. Et la 4e dimension, en fait, c'est le moment où on se trouve, où le joueur se trouve, puisque tu as dans un premier temps cette boucle de 22 minutes, donc forcément, tu n'as pas des tâches qui prennent, tu n'as pas une planète qui prend 50 50 minutes à être exploré pour la première fois, il faut tout, que tout soit accessible assez rapidement, ou en tout cas que tu comprennes un petit peu ce que tu as à faire assez rapidement. Et t'as aussi évidemment des planètes, on parlait un peu des gimmicks, ouais, qui évoluent avec le temps. Donc bah, par exemple Sablière, donc on a tout le sable de Sablière noire qui se déverse dans Sablière rouge, ce ouais, qui fait que t'as un moment, t'as un endroit qui est seulement accessible à partir de, je sais pas, on va dire 5 minutes, puisqu'il faut que tu puisses marcher sur une couche de sable, sinon t'as un lieu inaccessible. Ou t'as Cravité qui a une partie inaccessible, mais comme on l'a dit, t'as des morceaux qui tombent dans le trou noir et qui arrivent dans le trou blanc, bah, y a un morceau de Cravité, on ne peut y accéder qu'une fois que c'est passé dans le trou blanc. Donc comme il le formulait, il disait le when, c'est aussi important que le where. Mm.
Et ça, c'est vraiment des règles de level design que tout le monde doit apprendre, parce que, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un côté finalement assez scolaire, c'est parce que quand tu commences à découvrir un peu les grandes règles de level design, le système de pacing et donc de rythme, souvent la notion de temporalité, tu vois, ça pose beaucoup de soucis aux level designers, par exemple sur la durée d'un, la simple durée d'un dialogue. Mmh. Tu vois, la durée d'un dialogue, par exemple, dans GTA, ça c'est l'exemple typique où tu montes dans une voiture, le mec va te parler jusqu'au moment où tu vas arriver. Il faut que dans un open world, tu puisses mettre le temps, quoi qu'il arrive, le chemin que tu prennes, ouais, il faut que le dialogue dure à peu près ce temps-là pour pas qu'il y ait trop de silence. Et ça, c'est un truc qu'on oublie souvent, nous, en tant que joueurs, mais pour les gens qui conçoivent les niveaux, le temps qu'on va mettre à parcourir, à aller d'un point A à un point B, etc., c'est déjà une problématique en soi. Et je trouve ça assez rigolo qu'il se soit mis un défi supplémentaire en disant, bah, non seulement on va prendre en compte la temporalité du joueur, mais on va nous imposer une contrainte de 22 minutes. Alors au départ, il me semble que c'était 18 minutes, ils l'ont allongé un petit peu, mais voilà, on va mettre une contrainte d'une limite de temps, et il faut que tout soit accessible là-dedans, pas en une seule fois, parce que ça, ça fait partie, ça fait, c'est le pari du jeu, c'est de se dire, ben, on va réussir à accrocher les joueurs pour que quand ils meurent, ils reviennent et ils y retournent jusqu'à ce qu'ils aient tout trouvé. C'est, je sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est complexe, parce que c'est vraiment un défi technique, tu vois, et même intellectuel, de penser les choses comme ça, de, eh ben, comment on va faire, tu vois, comment tu fais pour prototyper un jeu pareil, comment tu fais pour envisager un truc qui fonctionne à la fin, mais comment ils en sont arrivés jusque-là, tu vois.
Ouais, c'est sûr qu'en termes de prototypage, ça a dû quand même être assez fou. Alors, ils expliquaient que justement, ils avaient commencé avec du papier. En fait, ils playtestaient les gens. Ils avaient fait une espèce de petit jeu de plateau papier où les gens, en fait, avaient des tours, et à chaque tour, ils disaient, bah voilà, je veux explorer, ou est-ce que je veux apprendre quelque chose. Et ils essayaient de playtester pour essayer de voir à quel rythme les gens avançaient et commençaient à se figurer finalement le grand mystère qui allait se formuler autour du jeu, quoi.
Ouais, encore une fois, les playtests sont vraiment capitaux. Il avait dit aussi. Alors souvent dans Outer Wilds, il y a des moments où on voudrait juste se laisser mourir. Enfin, il y a des moments typiquement quand on tombe dans le trou noir et qu'on arrive dans le trou blanc. En fait, quand tu connais déjà, c'est chiant. Il pensait mettre par défaut, en fait, rendre la méditation possible, ou juste dans les menus dire, bah, je retourne au début de l'écran, c'est bon, je meurs, tu vois. Et en fait, ça, ils l'ont enlevé parce qu'ils se sont rendu compte que ça couper l'envie d'explorer à certaines personnes. T'as des personnes qui tombaient pour la première fois dans le trou noir, ils arrivent au trou blanc, et boum, elles quittaient le jeu, enfin elles recommençaient le loop en disant j'ai raté. Alors qu'en fait, quand tu arrives dans le trou blanc, tu as cette station qui va t'apprendre des choses sur la façon dont marchent les trous noirs et les trous blancs. Il y a peut-être des infos aussi sur...
Alors, on va t'apprendre déjà la fameuse téléportation, le fait de devoir regarder au-dessus de toi, et quand une planète passe dans ton axe, hop, ça te téléporte là-dessus si tu es au bon emplacement. Et ça va être une des connaissances, en fait, qu'il faudra avoir pour pouvoir accéder notamment à Sablière.
C'est d'ailleurs là que tu apprends pour la première fois, enfin en général c'est peut-être là où tu l'apprends, il y a deux ou trois endroits où tu apprends justement l'idée que en fait tu tombes une tablette, tu sais, tu trouves une tablette quand tu reviens sur Cravité qui te dit que tu es arrivé un milliardième de seconde avant que tu sois parti.
Ah, ouais.
Et c'est là, en fait, que du coup tu trouves une première tablette Nomai où en fait ils disent, mais c'est pas possible, comment on pourrait arriver avant d'être parti, tu vois, ça remet en cause tout ce qu'on connaît. Et en fait, toi, des heures et des heures plus tard, quand tu tombes enfin dans le labo de Sablière, où tu te rends compte que eux, ils, du coup, bah, eux aussi ça les a choqués, mais ils sont allés comprendre comment ça fonctionnait, ce truc là et ça a donné finalement ce truc de 22 minutes. C'est assez rigolo de voir comment d'une simple observation, tu vois, c'est vraiment la méthode scientifique qui t'est expliquée, hein, c'est une observation et tu te dis, mais c'est bizarre ça, on va émettre une théorie et on va essayer d'aller la prouver et de voir ce que ça donne.
Ouais, les Nomai, parfois ils parlent comme ça, où plusieurs fois tu vois hypothèse de point, tu vois, ils s'expriment un petit peu avec cette manière scientifique. Mais du coup, ouais, juste pour finir avec ce qu'on disait, les playtests, surtout dans un jeu comme ça qui repose sur tellement de... Tu sais pas comment les gens vont réagir quand, quand tout est accessible, l'information, tu sais pas comment elle va être digérée, comprise, accessible. Il faut faire jouer énormément dedans.
Surtout que c'est marrant parce que c'est un jeu où eux, ils ont la maîtrise totale de comment fonctionne le monde. C'est-à-dire pendant 22 minutes, ils ont absolument la maîtrise de comment l'horloge tourne. Mais par contre, le déplacement du joueur, ça, ils ont zéro maîtrise. Alors qu'à l'inverse, par exemple, je sais pas, je prends les jeux Naughty Dog, là, la maîtrise du pacing, de savoir à quel moment le joueur à peu près il sera là. Alors que là, effectivement, dans Arthur Wells, tu ne sais pas. C'est pas a priori où il ira. Quoi.
C'est un jeu où il y a beaucoup d'autonomie. En fait, on est vraiment responsable. De toute façon, comme on le disait, c'est pas pour rien qu'on l'a comparé à Her Story et au Bradin en termes de spoiler. C'est un jeu où faut t'investir. C'est un jeu où c'est à toi de relier un petit peu les points entre eux, même si le jeu il t'aide évidemment avec le tableau de bord. Mais il y a des déductions. C'est à toi de les faire. C'est à toi de comprendre comment ça marche. Et du coup, en fait, il te laisse des petits. Autant il te dirige un petit peu. Donc, comme on le disait, avec des informations qui sont plus ou moins disponibles en fonction de où t'en es dans l'aventure, tes connaissances, mais c'est toujours un petit cercle dans lequel tu peux un petit peu te déplacer, t'as toujours une petite autonomie dans l'entonnoir dans lequel ils te mettent en fait.
Oui, et puis le fait que c'est toi qui choisisses à chaque fois ce que tu fais et où tu veux aller et quel mystère t'as envie d'investiguer. La lune quantique, tu peux dire, bon bah voilà, moi j'ai envie d'essayer de comprendre ce foutu bordel avec la lune quantique qui tourne autour de toutes les planètes et qui te nargue à chaque fois, t'essaies de rentrer dedans et ça marche pas, tu passes à travers. Donc c'est vraiment aussi, t'as cette autonomie dans les choix, de dire, bah moi j'ai envie d'essayer de connaître ça. Et de toute façon, il faut arriver en fait à se mettre dans cet état d'esprit. Et encore une fois, je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui peuvent être laissés sur le côté par le jeu, parce qu'il faut se mettre dans cette façon de penser là. Et une fois que tu commences à résoudre un par un, une fois que tu commences à tirer les grosses ficelles du jeu, les ficelles importantes, là tu vas pouvoir commencer à tout relier ensemble, et ça va prendre du sens en fait dans ta tête, quoi.
Et encore une fois, tu vois, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, il faut avoir envie de le faire aussi, parce que il y a pas vraiment d'objectif. C'est vraiment, tu réunis des infos, tu dis ah, ok, bon bah les Nomas ils bossaient sur ça, ah bon ok, les trucs quantiques ça marche comme ça, mais t'es pas obligé de le faire, tu vois. Et tu te dis pas, en fait, comprendre ça, ça va me permettre de faire ça. Enfin, il peut y avoir quelques exceptions, notamment, je pense, au canon là, qui envoie la sonde. On peut comprendre qu'il y a une partie où il y a les coordonnées de l'œil de l'univers qui sont sous l'Léviat, et du coup, tu dois comprendre comment percer le noyau de l'Léviat. Il y a des choses un petit peu comme ça où tu peux, ton information
va être
un outil.
Tu peux te donner un objectif, voilà. Tu vois, tu peux te dire, ok, en fait, il s'est probablement passé ça, donc je vais essayer de voir comment je peux y accéder. Mais par exemple, moi, tu vois, je savais pas du tout que c'était sous l'Léviat, j'avais pas du tout fait ce rapprochement-là, et c'est en arrivant sur la sonde, je fais, ah d'accord, ok, c'est ça qu'il y avait sous ce truc-là, tu vois, mais j'avais pas fait le lien comme ça. Et je pense que c'est un mélange un peu des deux, c'est-à-dire, il y a des choses où tu vas te donner des hypothèses, et bah, tu vas les confirmer, et t'es content parce que tu dis bah j'ai été malin, j'ai pensé ça, j'ai essayé de suivre une certaine démarche et ça a marché. Et puis il y a d'autres choses, parfois tu vas complètement tomber dessus et tu fais ah d'accord, ok, et c'est une nouvelle information, une nouvelle grosse pièce du puzzle qui va pouvoir alimenter tes autres hypothèses pour résoudre le truc, quoi.
Sous la particularité d'Outer Wilds, et du coup c'est pour ça que j'utilisais le terme de knowledge vania, c'est qu'il te récompense par uniquement un truc complètement intangible, c'est à dire que dans la plupart des jeux vidéo, la récompense c'est tu gagnes une vie, tu finis un niveau, t'as tué un boss, t'as gagné un point d'expérience, enfin tu débloques un objet, t'as une nouvelle arme. Là en fait, ce qu'on te donne, c'est simplement un truc qui est à toi, c'est pas un truc qui est dans le jeu, parce qu'il y a déjà tout dans le jeu. Ces 22 minutes là, elles sont déjà là, donc si tu savais déjà tout en arrivant dans l'univers, t'aurais rien à faire en fait dans Outer Wilds. Donc le fait de te récompenser avec un truc comme ça, c'est très osé, tu vois, c'est assez couillu de leur part, parce que ça peut effectivement ne pas fonctionner, parce qu'on est, faut bien se dire que pour la plupart des joueurs, ça fait quand même des dizaines d'années qu'on est bercé par les mêmes mécaniques de récompense et par les mêmes mécaniques de récompense de nos actions en fait.
C'est un jeu qui est quand même assez dépouillé. Alors on s'était dit que la meilleure récompense dans le jeu, c'est quand tu remontes dans ton vaisseau, que tu allumes ton journal de bord et qu'il y a une petite fiche qui se remplit ou qui apparaît, parce que tu dis ok, je progresse réellement, mais il y a que ça.
Et le message qui te dit vous avez débloqué un truc dans le journal de bord, c'est genre yes, ça y est, j'ai un nouveau truc,
j'ai une nouvelle info, et peut-être que je vais pouvoir tirer d'autres ficelles à partir de là. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la même explosion de feedback que tu peux avoir dans énormément de jeux, quoi.
Et au final, l'aboutissement du jeu, c'est juste de comprendre cet univers en fait. C'est de ne plus poser de questions quant à toutes ces choses qu'on a pu rencontrer. On avait pu en discuter entre nous. On le comparait par exemple à Subnautica. Au début, on les mettait un peu en parallèle, dans le côté il y a de l'exploration, il y a de l'émerveillement, mais c'est un peu l'anti-Subnautica dans un certain sens, puisque donc pour rappeler, Subnautica c'est un jeu un peu de survival crafting où pareil, on arrive sur une planète, on connaît rien, et il y a aussi on se pose plein de questions. Mais sur Subnautica, on va construire en fait beaucoup d'outils qui vont nous aider. À la fin, en fait, on devient fort quand même techniquement. On va pas non plus tout buter, mais il y a une vraie comment dire, une prise de puissance.
On est maître de notre domaine.
C'est ça. Il y a une prise en puissance. Tu vois, il y a clairement, objectivement, si tu recommences Subnautica, tu n'as plus rien. Tu vois, tu te sens à poil par rapport à la fin.
Tout à fait.
Alors que Outer Wilds, rien n'a changé en fait. Concrètement, c'est juste dans ta tête et il y a aucun moment où tu vas maîtriser ton environnement. Enfin, tu vas maîtriser dans le sens où tu vas juste le comprendre, le connaître. Et il y a aussi toute cette notion, les nomades ont un petit peu ça d'ailleurs sur la thématique, mais cette notion que Issa, c'était Alex Bishum qui disait que c'était un des piliers du jeu, tu ne peux pas influencer ton environnement. Ouais, à la fin du jeu, tu vas pas pouvoir arrêter la supernova, on en a déjà parlé, empêcher le sable de se déverser sur Sablier Rouge. C'est juste, tu vas comprendre l'univers et tu vas t'adapter à ça, tu vas savoir un petit peu, mais comme un explorateur, où aller, les bons chemins, les bonnes, tu vois, comme l'explorateur qui va connaître les créatures, mais ça veut pas dire les tuer, ça peut juste se dire se cacher, les laisser. Ouais. Et d'ailleurs, les nomailles, pour en revenir sur le côté un peu narratif, ils sont aussi beaucoup comme ça, tu vois, c'est un peuple scientifique qui observe beaucoup les planètes et tout, et on découvre qu'ils étaient arrivés sur Atrebois il y a très longtemps, qu'ils avaient découvert notre espèce à un stade un peu presque embryonnaire, on est une espèce de petit lézard à quatre yeux, et en fait, eux, ils laissent les espèces tranquilles aussi, ils sont un peu en côté, on va accumuler beaucoup de connaissances, mais on ne touche pas à notre environnement. Donc une fois qu'on a pris, s'ils prenaient des pierres
oui,
sur
Atrebois, toucher un peu pour fabriquer leur truc. Mais
une fois qu'ils ont réalisé qu'il y avait des créatures qui étaient en voie de développement, ils se sont dit on va se barrer, on va les laisser un petit peu vivre dans leur coin tranquille. Donc il y a un jeu un petit peu, tu vois, qui est vraiment qui met la connaissance au-dessus de tout en termes de vraiment d'aboutissement, mais reste à ta place. Tu vois, il y a vraiment ce côté, tu connais tout, mais tu ne vas pas te servir de cette connaissance pour maîtriser, tu vois, modifier ton environnement.
Bah parce que justement, comme pour eux, l'objectif final, c'est non seulement la connaissance, mais l'apprentissage, tu vois. C'est, pour les nomailles, c'est ça qui est intéressant, c'est comment tu apprends les choses. Le fait de découvrir est aussi important que la connaissance en elle-même. Le résultat, enfin, le voyage est aussi important que l'objectif. Et donc, c'est pour ça, en fait, c'est des gens, tu vois, c'est des gens respectueux de Twitch qui ne backseatent pas, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont pas arrivés avec les mecs d'Atrebois. Ouais, et ils sont pas arrivés, fais ci, fais ça, joue ça, et puis là là tu traverses le trou noir et puis c'est bon, t'as gagné. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que ça montre un travail d'écriture qu'on ne soupçonne pas au départ hein, par rapport aux nomailles, qui font que non seulement c'est un peuple, mais c'est pas juste des personnages qui sont là avec une fonction, c'est vraiment, ils ont une histoire, ils ont une façon de penser, ils ont une façon d'interagir avec leur univers qui va énormément nous influencer dans ce qu'on va lire et qui va nous donner vraiment une espèce de tonalité de quelle est l'ambiance de Outer Wilds. Et je trouve que moi ça m'a vraiment plu parce que c'était sympa de découvrir ces personnages là et de lire un peu leur histoire à eux, parce que tu vas essayer de les imiter en fait.
Oui,
tu vois, comme tu dis, eux ils ont compris certains trucs, je vais essayer de réfléchir un peu comme eux, et donc tu vas en fait t'adapter à leur façon de penser, et c'est comme ça que tu deviens un explorateur. Et moi j'ai vraiment trouvé ce passage là ce moment dans ton cerveau où tu te dis je vais essayer de faire comme eux parce qu'ils ont l'air sympas, ces nomades, ils me font marrer, moi ils me faisaient marrer avec leurs phrases un peu légères et tout. Je me suis dit je vais me mettre dans le même mood qu'eux, je vais essayer d'être un explorateur, et c'est à partir de là où j'ai commencé à vraiment surkiffer le jeu, quoi.
Et le truc qui incarne complètement ce que tu viens de dire, c'est la tour du savoir quantique qui t'explique les principes en fait de ces règles quantiques, mais qui te dit pas comment aller sur la lune. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est en mode tu te débrouilles, ils t'apprennent que si tu regardes ailleurs, ça disparaît, mais si tu les vois, enfin si t'as une photo de ça,
c'est des petits énigmes en plus, ils te disent c'est l'image de l'objet quantique, oui, ne bouge pas, ou un truc comme ça. Donc déjà tu dis ok, attends, faut que je me serve de mes photos. Mais c'est vrai que moi quand je suis arrivé en haut de la tour quantique, tu sais, j'étais là, j'étais yes, ça y est, ils vont me donner la réponse, quoi, tu vois. Et en fait, ça y est, vous connaissez, vous avez le savoir quantique, salut, bonne soirée.
Ils te donnent ton examen, tu vois, ton brevet, et t'es un peu mais je sais rien faire, tu vois, t'es un peu mais je sais pas ce que je dois faire de ce papier, ils sont non mais c'est dans ta tête, tu te démouilles. Et du coup normalement à ce moment là tu comprends, en fait c'est à toi du coup de digérer ça, de comme tu disais Benoît, ils te le disent pas, c'est à toi de l'apprendre, et une fois que t'es en train d'apprendre ça, et après t'as compris comment aller sur la lune quantique, mais c'est pas un truc qui se fait immédiatement. Et ça, tant qu'on y est sur la lune quantique, c'est un grand moment d'Outer Wilds pour moi, c'est un vrai moment de jeu vidéo où t'as ce moment où la lune quantique plein de fois elle te nargue un petit peu, parce que j'en étais à un stade de jeu où je savais que c'était en orbite par-ci par-là, mais j'avais essayé d'atterrir dessus, tu la traverses plein de fois, et à ce moment tu dis ah oh merde, mais attends, si je la prends en photo, normalement, c'est censé marcher. Et t'as toujours cette démarche scientifique où tu dis ok, normalement c'est bon, y a pas de raison que ça marche pas, mais t'es toujours un peu fébrile jusqu'au moment où là ton vaisseau, boum, tu vois, il tape la lune quantique, il dit putain, enfin, tu vois.
Et en plus, tu détruis ton vaisseau parce que tu t'y attendais pas. Alors moi, j'y suis allé, tu vois, genre, faut que je me dépêche.
D'accord.
Moi, je l'avais pris en photo, je me suis dit je me dépêche parce que des fois elle se barre, hein, tu vois, j'avais pas compris encore, j'avais pas toutes les règles, tu vois, j'avais appris la règle 1 et la règle 3, parce qu'il y a 3 règles quantiques à découvrir. Et je me suis dit, mais faut que je me dépêche parce qu'elle pourrait à tout moment se barrer. Et j'avais pas encore compris que c'était parce que je la regarde regardais pas qu'elle était pas là, mais je l'avais prise en photo. Je fonce dessus et mon vaisseau s'est écrasé. Alors je suis pas mort, mais il était complètement détruit. Et moi j'étais posé, mais j'étais tellement content. c'était un moment vraiment de complètement d'euphorie parce que ça y est, j'y suis. Et des moments comme ça dans le jeu. Enfin, tu vois, c'est la partie un peu anecdote, mais le jeu en est rempli de ces moments-là de d'eureka, de compréhension. Et moi je trouve que c'est un plaidoyer assez intéressant sur la façon d'éduquer les gens. Tu vois, sur une réflexion sur l'éducation et sur l'école, etc., qui est de ne pas nous apprendre des connaissances bêtement, mais nous apprendre des choses qui vont nous permettre de les appliquer, tu vois, de nous rendre autonomes. Tu vois, c'est l'histoire bête du poisson. C'est au lieu de te donner un poisson, je t'apprends à pêcher. Et après, tu te démerdes. Mais par contre, tu verras que ça se passera beaucoup mieux. Et c'est vraiment ça, Outer Wilds. C'est vraiment une espèce de plaidoyer de, bah voilà, on t'a appris à pêcher, et maintenant, bah débrouille-toi, il y a l'océan, tu vas voir, c'est cool.
Même si y a quand même beaucoup de connaissances du jeu qu'on va te donner clairement à un moment dans un écrit, tu vas arriver au fameux écrit qui va te donner quand même le gros indice. Moi, celui qui m'a vraiment marqué, c'est quand on arrive dans le laboratoire sur Cravité et qu'on voit que toutes les tours en fait de sablière noire représentent et t'emmènent sur représentent les sont faites à l'effigie des planètes auxquelles elles t'envoient. Et ça, c'était vraiment le mind blow parce que je me disais, putain, mais ça fait 100 ans que je viens sur cette foutue planète et j'ai pas remarqué ça, quoi. Alors que c'est évident, tu vois, quand tu le sais, tu le vois, mais clair comme de l'eau de roche, quoi. Et ça, c'est il y a plein de choses en fait qui sont là et elles sont devant ton nez et tant que tu n'as pas la perspective en fait pour les décoder, bah tu ne les vois pas, quoi. Et ça, j'avais trouvé ça très très fort. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée quand même de devoir appliquer ce qu'on t'apprend. C'est comme un peu l'histoire de la méduse là pour pouvoir descendre dans le truc. Bah il te dit pas non plus, voilà, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te foutes dans la méduse, que t'attendes qu'elle passe la barrière d'électrique et c'est bon, t'iras en dessous. Il te dit juste, voilà, apparemment à l'intérieur ça protège d'électrique, tu peux aller te cacher, tu peux aller et... Enfin, il te dit pas en plus que tu peux vraiment
cacher. Non, parce qu'en fait, c'est Feldspath.
Il te fait aller à l'intérieur parce qu'il a dit j'ai noté un truc à l'intérieur et il te fait prendre la position que tu vas devoir prendre pour pouvoir descendre dans le cœur.
Il faut aussi que, oui, il faut que tu observes que les méduses, elles arrivent à traverser le noyau électrique. Et du coup, une fois que tu as compris que tu peux aller dans une méduse, c'est là que tu dis ah, si je vais dans la méduse et qu'elle va dans le noyau, bah j'y serai.
D'ailleurs, de toute façon, Léviath est construit comme une espèce de petite métaphore du jeu, puisque toi, tu arrives, donc tu as la première atmosphère, ensuite tu dois aller under l'eau, ensuite quand tu essayes d'aller sous l'eau, tu te rends compte qu'il y a un courant qui t'empêche de le traverser. Quand enfin tu as compris comment le traverser, il y a à nouveau un putain de noyau et tu peux toujours pas aller à l'intérieur. Et c'est là.
C'est vrai qu'il y a trois verrous.
Bah oui, c'est ça, il y a différents verrous. Et du coup, c'est comme ça que les développeurs, ils s'assurent que tu ne vas pas te retrouver là par hasard, parce que tu aurais pu te retrouver par hasard à travers la tornade qui tourne dans le sens anti-horaire.
C'est vrai que
tu peux y arriver,
c'est impossible.
Tu pourras pas te dire, ah bah je vais sortir de mon vaisseau sous l'eau et je vais aller dans la méduse, parce que moi j'étais flippé. Enfin vraiment, c'est ultra effrayant comme passage où tu dis je vais rentrer dans une méduse. La méduse, il y a des trucs électriques partout. Enfin, ça fait peur. Tu vois le noyau d'une planète qui a l'air d'être très fort, parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est que comme tu as quand même des petites connaissances physiques de ta réalité, de notre réalité à nous, on sait que si l'eau elle tient alors qu'il y a de l'espace autour, c'est parce que elle est attirée par le noyau. Donc tu sais qu'il y a une force de gravité qui est extrêmement puissante. Et tu te dis mais comment je vais faire pour me rapprocher de ce truc là sans être écrasé, et c'est quand tu arrives sur son bronze, qui en soi est une planète complètement folle puisqu'elle change les échelles en permanence et elle joue avec l'espace-temps, et quand tu retrouves enfin Feldspath, donc qui joue son petit banjo, il te dit bah si tu te balades par là, j'ai trouvé justement une méduse. Et il a essayé de la bouffer et en fait comme il a essayé de la manger, il a essayé d'aller à l'intérieur et de la creuser, et c'est toi qui dois faire le lien entre il a essayé de la creuser, bah je vais peut-être pouvoir me cacher dedans,
voilà,
mais il te dit surtout ne la mange pas, c'est dégueulasse, tu vois.
Mais
c'est
le level design est fait de telle sorte à justement tu puisses marcher à l'intérieur de la méduse échouée et justement te mettre précisément sous le chapeau, et c'est ce qu'il faudra faire pour pouvoir passer.
Là c'est brillant en termes d'affordance, c'est génial, parce que du coup c'est une méduse, elle est donc écrasée, cette fois-ci elle n'est plus à la verticale mais elle est à l'horizontale, donc évidemment la forme même des filaments de la méduse t'indique que tu peux aller à l'intérieur, tu y vois une lumière, tu vois un truc, elle est complètement creusée, enfin c'est voilà le principe d'affordance qui est que l'objet t'indique de lui-même par sa forme comment il doit fonctionner. Dans Outer Wilds, c'est quand même un cas d'école, parce que je pense aussi au mécanisme, tu sais, avec les petites boules que tu déplaces avec le magnétisme.
C'est
ultra simple. Comment ouvrir une porte? Bah, tu le déplaces, tu déplaces le truc, la porte elle s'ouvre. C'est bête comme chou, mais ça marche à chaque fois.
Encore une preuve que c'est l'observation qui nous ouvre des portes.
Bien sûr.
Mais ce qui est important à noter, c'est quand même, il faut toujours l'espèce de petite étincelle dans ton cerveau à toi pour justement faire le lien entre tout ça, parce que bah moi, quand je suis rentré dans la méduse de machin et quand je suis allé sous l'eau la première fois, je me suis pas dit ah ouais je vais me mettre dessous, tu vois. Les connexions ne se sont pas faites tout de suite, et il y a plein de connexions qui se font comme ça, notamment par exemple le fait d'aller comment on rentre dans sa blière noire, comment on va pouvoir aller récupérer le warp core. Il faut comprendre déjà donc effectivement que les tours t'envoient où t'envoient quel tour, tu vois, et que tu saches qu'il y en a une du coup qui doit aller logiquement dans sa blière noire alors qu'elle est là sur sa blière noire. Donc déjà il y a une espèce de logique, faut changer un peu ta logique et faut accepter de se dire bon bah c'est au moment où le sable va passer parce que je serai encore en orbite avec sablière rouge quoi. Donc il y a plein de petites choses qu'il faut parfois y penser, parfois ça va être un petit peu de la chance, parfois tu vas tenter un truc, parfois je sais pas s'il y a, il y a forcément des moments dans le jeu où on y arrivait un peu par accident, et toi tu le disais tout à l'heure, et après les connexions se font quoi. Mais tu peux rester bloqué assez longtemps je pense sur certains aspects si la connexion se fait pas quoi.
Oui, moi le je suis allé sur internet hein, pour parce que j'en étais à un stade de frustration, tu vois, ouais. Pour le sablier noir pour aller à l'intérieur, ouais. Je me suis fait emporter 2-3 fois par le sable, j'ai fait bon,
moi c'est pour passer les sélacantes là sur dans son
ouais, sens, ça, c'était galère,
l'idée
hein.
Qu'il faut en fait prendre de la propulsion avant de rentrer dans une nouvelle graine, donc dans l'autre espace-temps, pour pouvoir garder ton espèce d'inertie totalement. Et ça, à chaque fois, je me disais, putain, on doit pouvoir passer, mais à chaque fois que je rentrais, je me faisais bouffer direct, ouais, je comprenais pas.
Et ça, c'est un truc, tu vois, c'est un des rares moments où je trouve que le jeu il t'aide vraiment explicitement, même si oui, c'est dur à comprendre. Là, c'est dans le tableau de bord, la hiérarchie, tu vois, et, comme on disait, il y a un coin pour la lune quantique, pour machin, et en fait, là, t'as vraiment le vaisseau Nomai.
Ouais.
Et donc cette info que les sélacantes sont aveugles, tu l'as dans la sablière rouge, et ça, cette carte là que t'as trouvé dans la sablière rouge, il te la met dans la partie vaisseau Nomai, c'est dans la partie du tableau, ouais. Vaisseau Nomai, c'est marqué les sélacantes sont aveugles, tu vois, ils n'entendent
que
le son.
Je comprenais bien qu'il y avait ce délire là, mais tu sais, j'avais pas à faire le mécanisme d'ailleurs, ouais. Hein, je vous rappelle que vous vous êtes fait bouffer voilà,
deux fois aussi,
puisque du coup pour finir le jeu en fait il y a 3 gros verrous à faire sauter. Il faut faire donc sauter le verrou de sablière noire, savoir comment récupérer le fameux warp core. Il faut faire à la fois sauter les 2 verrous de Léviat, puisque à l'intérieur de Léviat, on va trouver le fameux module qui appartient à la station orbitale dans lequel il y a les coordonnées de l'œil. Il faut d'ailleurs prendre son petit calepin et les noter. Et puis ensuite, une fois qu'on connaît les coordonnées, on prend le cœur et il faut donc retourner jusqu'au vaisseau Nomai pour à la fois l'alimenter, lui donner une destination, et ensuite c'est parti, on y va. Et donc le verrou, c'est de savoir comment aller jusqu'au vaisseau Nomai sur son bronze, sachant que son bronze, ça fait flipper sa putain de mère.
Ah ouais, c'est terrible.
J'ai vraiment eu plus peur en ce moment que tout Resident Evil 2, tu vois, c'est vraiment très oppressant.
Moi, c'est pas ces moments-là qui m'ont fait le plus peur, mais c'est vrai que c'est assez effrayant, et c'est justement le fait de jouer avec la physique qui marche très très bien. Moi, le moment où j'ai vraiment eu, la première fois où j'ai mon cœur, il s'est arrêté pendant quelques secondes, c'est quand j'ai fait le con, je me suis dit, je vais sauter sur la Lune, sauf que j'avais pas calculé qu'il y avait une indication que la gravité, elle était moitié moins forte que sur Atrebois, et je me suis retrouvé en orbite autour de la Lune, parce qu'en plus, il en manque toute une partie, il y a tout un morceau de la Lune qui a été arraché, et ce moment où toi, tu te rends compte que tu peux sauter et faire un bond gigantesque et te propulser en orbite, je t'assure, enfin je le ressens encore, j'ai vraiment eu, moi j'ai le vertige dans la vraie vie, et pas tout le temps, mais des fois je l'ai, et là j'ai vraiment eu une sensation de vertige alors que c'est impossible, j'allais pas tomber ni quoi que ce soit, et ça me l'a fait quand je suis arrivé à Léviat. Enfin il y a pas mal de moments où tu te dis il y a un vertige. Je sais pas vous, mais la fois où tu tombes, où tu vois que t'es en train de tomber vers le trou noir de gravité et tu sais pas ce qui va se passer, tu te dis bon je vais finir écrasé.
En fait, c'est un vertige métaphysique quoi. C'est vrai, moi aussi, quand je suis tombé la première fois, je fais, tu sais, j'ai pris une espèce de souffle, tu vois, genre ok, qu'est-ce qui se passe, tu vois, je vais mourir, et en fait,
et là,
non,
dans
tu meurs pas quoi.
Et tu vois l'indication, ton vaisseau il est à 14 km, t'es là, genre what, qu'est-ce qui se passe, je suis pas mort. Et en fait, si toi t'avais fait gaffe la première fois que tu regardais la carte de l'espace, parce que tu la vois, il y est le trou blanc, on le voit,
tu le sais pas.
Mais il est toujours marqué, il y a tout qui est indiqué.
Je crois que les enfants se sont foutus de moi parce que justement la première fois que je suis tombé dans le trou noir, j'ai commencé à reculer avec ma manette.
Bah oui, ça fait peur.
Et ils se sont moqués de moi parce qu'ils disaient, ah, mais t'es trop à fond dans le jeu quoi.
Ouais, tu sais, c'est comme quand tu commences à jouer, quand tu sautes
tu
avec le personnage, tu déplaces la manette en même temps que le personnage. Là, toi, t'es là.
Et
genre,
moi, j'étais pareil. Voilà, j'ai pris mon souffle, je me suis dit, ok, je suis préparé pour le grand saut.
Et je trouve ça fort parce que tu vois, collectivement, on doit avoir 90 ans de jeux vidéo à nous trois, tu vois, et on est quand même effrayé par ça parce que c'était quelque chose de nouveau, c'était une nouvelle sensation qu'on n'avait pas encore ressentie dans le jeu vidéo. Et des moments comme ça, c'était incroyable. Mais c'est vrai que les sélacantes, ça me faisait peur, mais plus que ça, c'était l'idée que je ne comprenais pas au début. J'ai mis beaucoup de temps à avoir bêtement le réflexe de ah, mais si je sors mon oscilloscope, je peux me déplacer à travers son bronze. Ouais. Parce qu'au début, j'y allais au pif. Hein. Je me suis dit, je retiens que c'est cette lumière là, et j'avais pas compris. Et c'était ma gamine qui m'a dit, mais t'as pas essayé d'écouter la musique vu qu'il joue de la musique. Et j'étais là, genre, oh, mais t'es génial, tu vois, genre, j'y ai jamais pensé. Alors
oui,
que c'est évident que
ce
soit
ça
comme ça.
Et en fait, on n'y pense pas et on se dit, tu vas rester bloqué une heure alors qu'en fait, tu sais comment faire logiquement.
Oui, moi j'avais oublié que sur ta radio tu peux capter les fréquences des modules de sauvetage que moi j'avais découvert par hasard. Et c'est vrai que le troisième, je savais qu'il était à son bronze. Et tu sais, c'est juste un moment où je me suis dit, ah oui, mais en fait je peux le traquer ce truc, cette capsule de sauvetage à son bronze.
Et puis bon, on en a pas trop parlé, mais je trouve que ce qui participe beaucoup au vertige, c'est aussi tout le sound design, à la fois sur les musiques. Le compositeur, il a fait un travail encore une fois qui me fait penser un peu à 2001 l'Odyssée de l'espace. Alors ceux qui l'ont vu, le moment où on voit le grand monolithe, il y a des espèces de chœurs comme ça qui résonnent et qui sont assez angoissants, oppressants. Et il y a des moments aussi dans Outer Wilds, quand on met la pierre de projection, se retrouve au milieu là de ces visages qui nous regardent. Et moi j'étais un peu pétrifié comme ça, je fais mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce moment.
Tu te retrouves face au juge de l'univers, tu sais, tu te dis, oui, te dire, ça, toi c'est pas bien,
c'est,
tu
vraiment,
meurs.
C'est ce que je me suis dit, j'avais vraiment l'impression d'être devant le grand conseil des sages, ça y est, tu vas être jugé désormais.
Ouais, tu sais, hop, il ferme ta flamme et hop, tu dois sortir de l'île.
Merci Denis, on embrasse Denis Brunière. Mais et puis même, tu vois, le fait quand tu passes à travers les téléportations, ils utilisent un sound design qui est à la fois éthéré et bizarre, mais qui arrive à accrocher notre imaginaire, parce que c'est déjà des bruits qu'on a un peu entendus, et ça arrive à nous faire connaître cette espèce de vertige un peu métaphysique, et on arrive à le toucher un peu du doigt, et je trouve que c'est ça qui est très fort dans le jeu.
Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand on a regardé un petit peu la composition de l'équipe de Mobius Digital, en fait, on s'est rendu compte que le compositeur, c'est pas Joel Clodo qui est arrivé et qui a joué du banjo. C'est incroyable, le CV du compositeur est assez taré, puisqu'en fait, il bosse pour Disney, et il fait les musiques des trailers des films Avengers, des films comment ça s'appelle, Pixar, etc. Donc en fait tu te dis mais le type a déjà une expérience incroyable, hein, et je pense que c'est, si tu vois, c'est le côté un peu Masioka, où comme il avait bossé chez ELM et que bah, c'est un acteur, il avait en fait un réseau de connaissances assez incroyable. Ils ont pu faire une espèce de petite dream team pour réaliser, parce que la musique même, le thème même tu vois, de la musique, quand tu vas mourir, quand tu commences à l'entendre et tu sais que ça veut dire que ça va faire bientôt 22 minutes, enfin maintenant si je l'entends, il se passe un truc à chaque fois que je vais entendre certains morceaux d'Outer Wilds maintenant, et j'écoute très régulièrement l'OST, hein, je l'avoue, ça me fait toujours un petit quelque chose, parce que je sais que ça veut dire, ah bah là, voilà, ça fait 22 minutes, il faut arrêter, je vais mourir, je vais attendre, je vais regarder la supernova, enfin je sais pas ce que je vais faire, je vais me jeter dans le soleil, mais bon, maintenant il faut que je fasse quelque chose, quoi, c'est la fin. Et d'avoir réussi à rendre tous ces thèmes aussi forts, il y a des vidéos sur sa chaîne du compositeur où il explique l'évolution justement de son travail. C'est très intéressant de voir comment il a réussi à créer comme ça ce mix entre du synthé et du banjo.
Et puis t'as cette fin aussi qui est, musicalement, qui est hyper marquante. Déjà la première fois que t'arrives dans la salle bien noire, dans la chambre des grands juges, hein, c'est là que tu comprends aussi, tu dis ah ok, oui c'est là,
c'est
tous les grands masques.
mais j'étais fou quand même.
Ah mais c'est génial, c'est incroyable.
Parce qu'en plus, c'est un jeu qui fait beaucoup de foreshadowing, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous présente, qui vous narguent un petit peu, et le nombre de fois où t'as mis une foutue pierre de projection et tu te retrouvais face aux 5 Gugus.
Parce que du coup, ça explique du coup aussi, parce que comme ils sont complètement isolés, c'est logique.
Il faut qu'elle communique partout en fait. Ouais. Et quand t'arrives dans ce foutu truc, tu te dis putain, mais j'y suis quoi, ça y est, je suis au centre, je suis au cœur de tout ce grand mécanisme, de toute cette horloge qu'est ce jeu.
Et t'as la musique qui vient nourrir justement ça, qui est assez marquant.
Et puis ensuite, t'appuies sur le bouton, il y a le truc qui s'ouvre, tu vois le warp core au milieu. Ah non, c'était dingue. C'était dingue.
Et si tu prends le warpcore, là il y a plus de musique, je crois, quand une fois que tu fermes un peu le réacteur, quoi, t'as plus de musique, et puis tu sors du
téléportes
et là t'as la musique qui repart, qui est le thème principal, mais plus
c'est le thème 22 minutes, mais Final Voyage, il s'appelle le morceau, et donc qui est rajouté. Et t'as une ligne de synthé qui se rajoute par dessus, et cette musique là techniquement tu l'as entendue au moins 10, 15, 20 fois, probablement plus des centaines, parce que t'es mort un nombre incalculable de fois, et enfin tu l'entends, mais avec cette variation et ce simple truc, tu sais tout de suite ce que ça veut dire. C'est genre ça y est,
c'est le voyage
bon
final.
Tu vois, et c'est la musique genre qui monte, et là il y a laissé la corde.
Et là, voilà,
il faut aller à son bronze, parce que tu sais, putain, il faut que je passe par ces trucs-là.
Une dernière fois l'affronter, et c'est ça qui est beau.
Et c'est
aussi,
génial
parce que la première planète sur laquelle je suis allé, c'est fucking son bronze. Tu vois, je suis allé dans le petit trou au milieu, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce machin. J'ai vu les messages, j'ai fait, allez, salut, merci, au revoir, à plus jamais. Et c'est vrai que tu te dis, bah, il va falloir encore une dernière fois, il va falloir aller à son bronze, se farcir les petites bébêtes et aller jusqu'au bout pour activer ce foutu vaisseau. Mais bon, c'est quand même assez magique.
Ah, mais de toute façon, tout c'est vraiment le climax de fin est extrêmement bien rythmé, extrêmement bien travaillé, puisque bah du coup tu sais comment composer. Toi tu l'avais peut-être déjà vu, moi j'avais la première fois j'avais déjà fait les symboles, parce que j'avais le code, mais j'avais pas le warp core. Si je fais les symboles, il va peut-être se passer un truc, mais évidemment non. Mais du coup, quand tu dois les composer toi-même avec cette petite boule que tu as utilisé depuis le début pour juste ouvrir des portes, et qu'enfin ça y est, le vaisseau il se téléporte, c'est quelque chose qu'il faut ressentir une fois, et je suis tellement content d'avoir fait ce jeu, mais parce que c'est un truc, c'est, ça fait partie de ces jeux où on le dit tout de suite, j'aurais tellement voulu l'oublier, comme ça je pourrais le recommencer et revivre ça à chaque fois. Et bon, c'est pas possible, hein, malheureusement, on ne remonte pas dans le temps, on ne revient pas 22 minutes en arrière. Mais ça m'a fait, ouais, ça m'a fait un bien fou. Tu vois, tu parlais de comment tu disais, vertige métaphysique. Ouais. Je sais pas si j'irai aussi loin, mais il y a un truc clairement qui s'est passé où j'ai découvert une nouvelle strate dans le plaisir qu'on peut ressentir avec le jeu vidéo, avec Outer Wilds.
Et je pense que finalement, moi, ce qui m'a le plus impressionné, enfin, au-delà de toutes ces émotions qui sont importantes et qui sont pourquoi le jeu vidéo est un art, n'est-ce pas ? Il arrive à nous faire ressentir des émotions, mais surtout, c'est une vraie prouesse en fait, technique et ludique. C'est-à-dire que tout cette espèce de monde-là, toute cette espèce d'horloge qui est hyper bien réglée, avec toutes ces petites mécaniques qu'il nous faut découvrir, pouvoir comprendre comment tout ça fonctionne. Je trouve ça assez incroyable, tu vois, vraiment en termes d'achievement créatif, tu vois, c'est fou, quoi.
Ouais, et puis surtout, ça fonctionne, ça mais c'est stable.
Debout. C'est ça, voilà.
Ça marche, il n'y a pas de bug. Moi, j'ai jamais eu un moment où je me suis retrouvé sous une texture, j'ai jamais eu un moment où la gravité n'a pas fait ce qu'elle attendait.
Et encore, il y aurait une faille et un bug, tu vois, où tu passes à travers un truc, pourquoi pas, tu vois. En fait, le tout se tient, tu vois, mais vraiment ludiquement. C'est-à-dire, c'est vraiment les mécaniques ludiques et de l'univers qui se tiennent en place et qui fonctionnent, quoi.
Ouais, tu vois, il y a un côté escape room, j'y pense, parce qu'on va aller en faire une là à l'occasion, mais il y a ce côté-là où tout a été pensé justement de cette manière-là, et le jeu est un peu construit sur ce modèle-là, en fait, sur ce côté puzzle, résoudre les enquêtes et tout. Mais c'est vrai que d'un point de vue technique, quand on dit technique, c'est vraiment en termes de développement, en termes de code, en termes de design. Il faut bien se dire que là, le jeu, même si visuellement il paraît un peu naïf et la DA, elle est effectivement, voilà, c'est du low poly, c'est des trucs qu'on a déjà vu. Par contre, ce qui fonctionne derrière, la mécanique, l'horloge, le code, la matrice, là, c'est incroyable, parce que c'est bah, y a pas beaucoup de monde qui serait arrivé, je pense, à réussir à faire un truc aussi stable, parce que vraiment tu te dis, bah, faut qu'à chaque fois, ça soit toujours la même chose. Il faut que la planète, à un instant T, elle soit toujours à cet endroit-là. Faut pas qu'il y ait une seule variation dans dans la vitesse d'une planète, dans sa vitesse de déplacement. Il faut que t'assurer que, bah, l'intrus, au bout de 83 tours,
c'est une horloge,
il tombe jamais.
C'est vraiment, enfin,
voilà. Horloge, quoi. Voilà, exactement. Le côté horloge coucou suisse, c'est vraiment, je pense, une très bonne image pour expliquer comment Outer Wilds fonctionne aussi bien.
Et puis, aussi, ce qui est important à souligner, c'est que, bah, c'est un petit jeu. C'est-à-dire que, c'est un petit jeu, mais très dense. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ont compris. Encore une fois, c'est quelque chose, on en parlait quand on parlait de Firewatch, c'est encore des gens qui ont compris quelle était la taille de leur univers. Ils se sont dit, bah, on va pas en faire tant que ça des planètes finalement. Il y en a quoi ? Il y en a 4, 5 finalement.
Ouais, il y en a pas tant que ça.
Et ils ont eu la sagesse, l'intelligence de se recentrer. Et je pense aussi, ils se sont dit, bah voilà, faut que ça tienne sur 22 minutes. Faudrait pas faire un truc trop complexe d'une heure. Parce que je pense que franchement, intellectuellement, je sais pas si on aurait pu le supporter en tant que joueur. Mais voilà, tout se tient dans ce petit truc extrêmement condensé, extrêmement dense. Et ils ont fait les bons choix, encore une fois. Tout ça tient dans ce petit truc, quoi, et je trouve que c'est vraiment.
Et il y a tout un tas d'autres petits aspects dont on n'a pas forcément parlé, mais moi par exemple, je suis vraiment impressionné par la qualité du vaisseau. Le vaisseau, tu sais, tu rentres par le milieu, il y a 4 chemins, il y a chaque chemin une indication très claire, et le journal de bord, on en a déjà pas mal parlé, mais c'est un outil absolument magique du jeu vidéo, parce que il t'apprend, il te donne en fait ton avancée au fur et à mesure, et il te permet de revenir à ce que tu sais déjà. Lui, il va pas oublier. Et c'est un outil qui est vraiment très bien foutu, parce que ce qui est compliqué avec ce genre de jeu là, et je pense que c'est quelque chose dont ils avaient conscience, c'est que si tu t'arrêtes de jouer parce que t'as une vie, parce que t'as un travail ou une famille, alors déjà, quelle idée, hein, pour commencer. Non, mais du coup, comme tu peux pas jouer en une seule session, ils ont dû prendre en compte le fait que tu allais revenir plus tard et tu risquais d'oublier des choses, puisque le sel du jeu, c'est ce que tu as appris. Et ben, le journal de bord, il est là pour te le rappeler en permanence, et ça, je trouve ça incroyable, parce que la façon dont il est dessiné te permet de comprendre les causes, les conséquences, où j'ai appris tel truc, ah oui, j'avais appris tel truc ici, donc je vais retourner là, j'en étais où la dernière fois, je veux faire
sur son journal de bord, tu vois, il y a des fois, plusieurs fois, je me suis posé, je fais, ok, attends, vas-y, on reprend un petit peu, on regarde un petit peu où on est, et ça fait du bien. Et c'est marrant que tu parles aussi de ces sessions, parce que je pense que c'est aussi un jeu, alors peut-être que tu peux le faire sur 2-3 jours, je sais que Thomas de Game Spectrum, je crois qu'il l'avait vraiment bouffé en quelques jours, mais je pense que c'est un jeu aussi, c'est bien de pouvoir le digérer un petit peu, tu sais, parfois tu vas jouer, tu vas voir des trucs, et ensuite tu vas y repenser, tu vas te dire, ah non, mais attends, peut-être que ça marche comme ça, peut-être que je peux faire ça, et c'est un jeu aussi où t'es immergé quand t'es hors du jeu, c'est-à-dire que tu y repenses toujours et il y a des solutions, tu vas réfléchir, tu vas trouver des réponses en étant hors du jeu, parce que ça se passe encore dans ta tête et les rouages sont encore, comme tout se tient parfaitement, tu peux aller te brancher dans le jeu, tu vois, moi je peux fermer les yeux et me dire, bon attends, je peux partir par là ou un truc comme ça, parce que tout se tient et du coup tu peux t'y raccrocher et continuer à réfléchir hors du jeu, quoi.
Oui, c'est toujours bon de rappeler que de toute façon, à partir du moment où c'est interactif, t'as à peu près autant d'Outer Wilds d'expérience en fait qu'il existe de personnes. Et j'avais écouté donc un podcast où il y avait Alex Bishop qui était interviewé. Et en fait, t'avais vraiment parmi les personnes qui l'interviewaient, t'avais un mec qui avait genre tout fait en deux jours, et l'autre il a dit bah moi entre ma première et ma deuxième session, il s'est écoulé une semaine.
Ouais.
Donc effectivement, le tableau de bord, c'est vraiment quelque chose auquel tu peux te raccrocher, et c'est pour ça on revient un petit peu à ce qu'on avait dit, mais tout ce qui est playtest, enfin se mettre dans la peau des personnes qui y jouent, savoir donner juste le bon outil, tu vois, pour s'adresser à tout le monde en même temps, c'est vraiment compliqué.
Et ça a l'air de rien, mais d'un point de vue de développement et de maturité, on va dire d'évolution de toutes les personnes qui créent des jeux vidéo,
c'est
par rapport,
c'est
de se dire,
un mec qui sort sa thèse.
Mais oui, c'est ça, c'est
pas
des
normal.
Gens très jeunes qui ont une expérience finalement. Mais si justement, c'est ça, c'est parce qu'ils ont des codes auxquels on n'a pas, que nous on a eu mais accès beaucoup plus tard. Mais vraiment, le truc sur lequel je veux revenir, c'est cette idée de nous donner des informations. C'est un des grands défis, tu vois, aujourd'hui avec la quantité de jeux qui existent, le fait qu'ils aient pensé à faire un outil qui serve à la fois de marqueur de ta progression, mais qui puisse t'aider à te replonger dans le jeu quand tu y reviens après une semaine ou deux semaines ou un mois. Si demain je relançais le jeu, bon, je m'en souviens encore, mais ce que je sais, c'est que entre le moment où j'ai fait le jeu au mois de mai où je l'ai terminé fin août, il y a eu deux mois pendant lesquels j'étais pas du tout là, et ça m'a pas dérangé, j'ai pu reprendre le jeu. Et c'est un truc, dans le rythme de travail que j'ai, comme j'enchaîne les jeux énormément, des fois je mets un jeu en pause pendant des mois, le fait qu'il y ait enfin un truc qui me permette de m'y replonger sans avoir à le recommencer de zéro, putain, mais ça fait un bien fou, quoi. Et ça montre vraiment une compréhension de la part des développeurs de notre temporalité à nous, qui est que oui, on peut pas jouer 80 heures, et heureusement que la boucle elle dure pas 4 heures, tu vois. C'est pas une boucle à la Majora's Mask où ça dure 3 heures,
ouais,
tu vois. Là c'est une boucle de 20 minutes, c'est des petites sessions, 20 minutes c'est rien, tu vois.
Ça fonctionne bien parce que encore une fois, ça se repose sur la connaissance et il n'y a pas à réapprendre à jouer, c'est-à-dire que finalement ton skill, c'est pas un jeu où, tu sais, je sais pas, je prends un exemple, Sekiro, tu t'arrêtes à la moitié, pour se remettre dedans, va falloir se tordre un peu le cou, quoi, parce que tu vas le sentir passer. Alors que Outer Wilds, il te demande pas vraiment beaucoup d'exécution, il n'y a pas de mécanique de gameplay qui sont extrêmement dures à jouer, enfin, tu peux te lancer une fois,
tu peux galérer au début.
Du vaisseau,
ouais,
voilà,
bon,
qui est un petit peu
voilà.
Galère, et encore après, tu t'y fais. Moi j'étais en mode Faucon Millennium au milieu de sablière rouge quand il y a pas le sable, donc tu peux te faire des kiffs quand même avec ça, mais c'est pas compliqué à jouer, et du coup comme c'est toujours dans ta tête, il suffit juste de reprendre un petit peu ok, où j'en suis, et hop, ça y est, c'est reparti, ça roule, parce que comme de toute façon c'est toi qui dois t'approprier les trucs, comme t'es obligé d'être en autonomie, en implication totale, on s'approprie beaucoup plus les choses que quand on est un peu passif et qu'on nous mène un peu plus à la baguette, quoi.
Et ça, c'est important de souligner le côté relativement accessible. Alors oui, on peut toujours argumenter le fait que le contrôle du vaisseau, il n'est pas si intuitif que ça, mais une fois que tu l'as maîtrisé, tu dois pas réapprendre à viser, tu dois jamais effectivement avoir des moments où c'est un skill shot. Tu vois, moi j'ai eu peur qu'on me demande de me poser sur la station solaire genre à la main, et j'étais là, mais jamais j'y arriverai, c'est impossible. Et au final, y a une technique qui permet de le faire.
On l'a essayé,
mais bon, au final, on sait comment ça se termine.
Moi, à un moment, juste, j'ai même cru que c'était les fusées qu'on rappelle, tu sais, dans leur l'espèce de canon.
Ah oui, les fusées Nomai, ouais.
Il allait falloir servir de ça pour foncer sur la station solaire. Ouais. Oh putain.
Oui, non, ça aurait pu. Mais et ça qui est intéressant, c'est que encore une fois, ça montre la lucidité des devs qui se sont dit, vu que nous, le cœur du jeu, c'est l'exploration et la connaissance, le gameplay, on va le mettre en retrait. On va volontairement vous donner tous les outils dès le début. Vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas d'expérience, il n'y a pas d'inventaire, il n'y a rien à gérer. Vous avez juste vos déplacements et ce que vous allez apprendre. Et ça, encore une fois, ça montre qu'ils sont allés au bout de leur idée en disant, nous, notre jeu, c'est un jeu exploration, donc le gameplay n'a pas à être prédominant.
Punitif ou challengeant, en fait. Il n'y a pas à nous challenger à travers l'exécution.
Ça n'aurait rien apporté.
Non, vraiment, ce serait vraiment chiant.
Et ça, je trouve que c'est vraiment le signe que Outer Wilds, c'est un jeu moderne dans le sens où on ne réfléchit plus aujourd'hui les mécaniques de gameplay en termes de plaisir, de fun ou de skill, qui est l'héritage de l'arcade où on nous demandait une certaine adresse. Aujourd'hui, on sait que nous faire accomplir quelque chose va provoquer une émotion, et donc on va essayer de faire en sorte que tout nous renvoie à ce truc-là pour pas qu'on soit sorti. Tu vois, l'exemple que je prends souvent qui va à l'opposé de ça, c'est le fameux quand dans Call of Duty tu dois appuyer sur F pour faire le respect du mec qui est mort, c'est au tout début du jeu, donc c'est pas un vrai spoil, ça ne marche pas, tu vois, ça n'a aucun lien, le geste que tu fais n'a aucun lien avec ce que tu es en train de faire, alors que dans Celeste, dans Firewatch, dans Outer Wilds, tous les jeux un peu plus modernes, on a en fait cette idée qu'aujourd'hui ce qu'on accomplit dans un jeu a du sens, et ça c'est pour moi vraiment le signe que on est passé à une nouvelle époque du jeu vidéo, et Outer Wilds y arrive vraiment de manière complètement brillante.
Ouais, tu sens dans ce jeu qu'il y a vraiment une intention forte, en fait. Tu sens que la personne, elle voulait dire quelque chose, transmettre quelque chose, et que ça, ça converge pas mal dans ce sens-là. Il y a notamment, on avait pu évoquer un peu les marshmallows. Ouais. Il y avait une anecdote assez intéressante où eux, donc, ils voulaient donner un petit peu cette couleur au jeu, donc comme on l'avait dit, un peu NASA, un peu scientifique d'un côté, mais quand même un peu baroudeur de l'autre.
Chill,
voilà.
Banjo,
un peu voilà, le backpack, tu dormir à la belle étoile, et d'ailleurs, bah, c'est un peu l'image, c'est le feu de camp,
ouais, vraiment,
c'est, voilà,
ouais,
c'est la forêt, c'est ça. Même si moi j'avais plus le côté exploration que vraiment randonneur qui va juste prendre plaisir à la marche, mais c'est quelque chose qu'il voulait vraiment donner au jeu. Et le fameux marshmallow, c'est quelque chose qui était là très tôt en fait dans le jeu, et lui il appelle ça même un prototype émotionnel.
Ouais, ouais, ouais,
en fait,
c'est
parce
super
que ça
intéressant,
donne
ça.
Cette couleur, cette émotion au jeu, cette teinte en fait. Et c'est juste de l'émotion, tu vois, c'est pas une feature de gameplay, c'est pas.
Moi ça me choque en termes de maturité, tu vois, c'est vraiment, je me dis putain, les mecs là en 2012 ils étaient déjà à se dire ça, c'est-à-dire qu'à la fois ils sont capables de créer ce foutu monde, et en même temps de se dire attends, on va mettre le marshmallow, en fait il a une importance émotionnelle dans la tonalité. Fort quand même, enfin. Il y a une belle maîtrise, je trouve, quand même, tu vois, de la grammaire.
C'est fort, mais moi, j'y vois aussi, comme je disais, vraiment le côté personnel, en fait, du mec, parce que c'est pas... Il s'est pas dit, je pense, hein, il s'est pas dit, bon, on va mettre un prototype émotionnel...
Non, non,
il n'y
a pas ce...
Je pense
pas que c'est aussi réfléchi que ça.
Voilà, mais je pense qu'il avait envie juste de transmettre ça. Il s'est dit, bah tiens, le marshmallow, ouais, ça cristallise pas mal ce que j'ai envie de dire, mais c'est quand même, après coup, il est au moins conscient... que ça a son importance, tu vois, de dire, bah, d'avoir cette appellation de prototype émotionnel, de se rendre compte que parfois ça ne tient qu'à des petites choses comme ça.
Et ça, on peut le relier avec la montée de ce qu'on appelle le narrative design ces dernières années dans le jeu vidéo. Hein, le narrative design, c'est un terme qui est encore en train d'être exploré et qu'on n'arrive pas encore à définir clairement. Mais en gros, c'est l'idée qu'effectivement, tout ce qu'on va faire dans un jeu vidéo va avoir un impact sur la narration au sens extrêmement large. C'est-à-dire ce que nous, on va vivre, notre histoire, l'histoire du jeu, l'histoire de l'univers, l'histoire des personnages. Bref, tout ce qui peut se raconter dans un jeu est finalement imbriqué. Et moi, c'est vraiment ça qui me fascine dans le jeu vidéo moderne, qu'on en arrive justement à cette idée que bah, si je mets un marshmallow et qu'on va pouvoir l'utiliser pendant quelques secondes, je l'ai dû l'utiliser deux fois en tout et pour tout, hein, genre au début et à la fin, mais ça avait déclenché un truc dans mon cerveau qui me mettait tout de suite dans un mood qui me disait ce jeu n'est pas comme les autres. Et ils ont réussi à se distinguer avec finalement une action très bête, le fait de griller le chamallow, et si tu peux le faire trop griller, mais ça a aucun impact, qu'il soit trop grillé, pas grillé, tu vas pas perdre de la vie, enfin tu vois, c'est pas Monster Hunter, ça a pas une fonction, ça a pas un côté utilitaire, c'est juste quelque chose qui est là et qui va t'aider à simplement t'immerger et à rentrer dans ce jeu là et effectivement, comme tu le dis, moi je suis bluffé parce que bah, c'est des gens qui arrivent avec finalement effectivement ils sont plus jeunes que nous, mais ils ont pas encore une grosse expérience, c'est leur premier jeu.
J'avais des petits trucs à côté, mais voilà, c'est leur premier gros jeu commercial, quoi.
Et ils arrivent en nous disant, bah regardez, on peut faire tout ça avec un jeu vidéo. Et bon, encore aujourd'hui, je pense que je le sais, tu vois, je m'étais dit, bon, Subnautica, et finalement c'était la fin, je pensais que c'était mon jeu favori, et là il y a Outer Wilds qui arrive et qui me dit, mais on peut aller encore tellement plus loin, on peut montrer tellement encore de choses avec le jeu vidéo sans être violent, tu vois. C'est vrai que ça, c'est un truc sur lequel je voulais j'ai mis quelques notes, moi, dans la petite fifiche, en disant, c'est vrai que on meurt beaucoup. Les Sélacantes, ils sont méchants, la lave elle est méchante, il y a plein de trucs qui sont dangereux, il y a d'autres choses qui sont hostiles dans l'univers d'Outer Wilds, mais nous on n'est jamais violent, on n'a jamais d'armes, on n'a jamais de trucs, tu vois, on peut pas lancer une sonde sur quelqu'un et ça va lui faire mal, ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez moderne dans l'approche du jeu vidéo, de se dire on peut se détacher des vieux codes de il nous faut une arme, il nous faut de l'expérience, il nous faut des ennemis. Là, il n'y a pas vraiment d'ennemis, il n'y a pas vraiment, la nature elle est là et elle est là indépendamment de nous en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les thématiques qui sont abordées, parce que on doit accepter, comme tu disais, la mort, on doit accepter l'échec et tout, et on ne peut pas maîtriser notre environnement. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant dans l'approche justement du jeu vidéo.
C'est vrai, oui, la rhétorique du jeu vidéo, souvent, c'est, encore une fois, on renvoie à Subnautica, mais c'est de surpasser un peu son environnement, de devenir vraiment le maître de ce truc-là, alors qu'effectivement, dans Outer Wilds, on se sent constamment fragile, même si on se sent à l'aise dans l'univers et qu'on se dit, c'est bon, de toute façon, je sais comment tout ce bordel fonctionne et je vais pouvoir faire mon voyage final. On a toujours cette petite fragilité qui fait que, je vais percuter un cactus et ça y est, ma combinaison elle est déchirée, c'est fini, quoi.
Ça, la connaissance, ce n'est pas une source de domination, c'est juste prendre conscience de l'horloge dans laquelle on est, en fait, juste qu'on est tel engrenage à tel endroit et on pourra pas dépasser sa condition.
Et après, faut accepter que l'horloge s'éteigne et que c'est la fin de l'univers. C'est pas la destination, l'important, c'est le voyage qui compte, c'est vraiment le truc bidon. Mais c'est vrai qu'Outer Wilds arrive arrive à bien le métaphoriser dans son truc, à lui donner une dimension un peu plus métaphysique, philosophique, c'est-à-dire que c'est pas juste la phrase bateau un peu débile, mais ça prend toute son ampleur, et je trouve que justement la fin donne un bel éclairage sur tout ce qu'on a vécu avant, sur toutes ces petites anecdotes, et je pense que là sur le Discord, ça va continuer, je pense qu'il y a d'autres gens qui vont continuer de découvrir Outer Wilds, et qui vont nous donner leurs petites anecdotes, ces petits moments de jeu un peu uniques qui leur sont arrivés dans Outer Wilds, parce que c'est ça qui a compté finalement, c'est toute cette expérience, tous ces moments d'eureka, ces grands moments où on se dit « Ah putain, mais c'est ça, ça fonctionne comme ça ce truc-là », et c'est ces petits moments-là qui sont importants, et au final ça fait un grand jeu quoi.
Bah c'est ça, hein, c'est notre jeu de l'année, alors évidemment, bon toi t'as Disco Elysium qui t'a aussi beaucoup marqué, enfin il y a eu des grands jeux
cette année.
Il y a vraiment des gros trucs, alors on s'en fiche hein, de savoir si c'est
oui,
lui,
là,
pas le GOTY,
ça,
on
s'en
fout,
c'est
mais
pas
ce qu'on voulait dire, je pense que l'idée de finir l'année avec ce jeu-là, c'est parce que vraiment c'est un jeu qui est marqueur, hein, tu vois, dans l'évolution du jeu vidéo, c'est pas il y aura un avant, un après, mais pour moi il cristallise en fait des évolutions qu'on a constatées et dont on parle en fait hein, depuis plus d'un an maintenant dans cette émission, et lui il arrive à toutes les réunir et à en faire un truc, tu vois, nous on avait écrit sur la petite fiche que c'était une école du jeu vidéo à part entière, parce qu'effectivement ils arrivent à nous montrer qu'avec le level design, avec de l'exploration sans violence, avec tout un travail sur la connaissance, on peut en fait explorer toute une nouvelle voie, et j'espère en fait que ça va donner envie à d'autres gens d'aller dans cette direction là, parce que j'ai pas envie d'un Outer Wilds 2, je m'en
non,
fiche, c'est pas ça qui est intéressant, ouais. C'est l'influence, c'est pas juste il faut continuer, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut en retenir de ce jeu là, et qu'est-ce que ça va nous apporter à nous futurs créateurs et créatrices dans quelques années quoi.
Exactement, et d'ailleurs on espère qu'il y a des gens qui nous écouteront justement en 2020, en 2021, parce qu'ils se sont dit ah bah tiens, fin du game, ils ont insisté sur ce jeu là donc peut-être qu'il faut que je le fasse, parce que encore une fois je crois que commercialement c'est pas un jeu qui a tapé des scores de fifou hein.
J'ai pas vu passer de news,
on reste ouais. Encore à mon avis dans nos sphères, dans nos petites ouais. Sphères vraiment d'amateurs de jeux vidéo, de gens qui sont quand même assez engagés là-dedans, donc pour l'instant il a pas pété complètement.
Non mais j'imagine à son échelle ça doit être pas
oui,
trop
oui,
mal,
je pense,
comme
je pense
on le disait
que,
le bouche à oreille il marche vraiment bien, j'imagine qu'il y a beaucoup de podcasts ou d'émissions, enfin comme on
oui,
disait
là,
on
va, cette année là
on va
être au milieu dans un truc,
voilà, des jeux de l'année, j'imagine
on va en parler,
il sera dans beaucoup de top 3, 5, 10 et savoir, donc ouais je me fais pas non plus trop de soucis pour
j'avais vu un post je sais plus qui c'est qui a posté ça sur Twitter, c'était un compte américain, c'était peut-être Jujex ou un truc comme ça, mais qui disait que après les VGA il y a plein de gens qui disaient bah tiens il y a pas de Outer Wilds, et t'as plein d'autres gens qui disaient mais de quoi vous nous parlez, c'est quoi, c'est Outer Worlds en fait, vous connaissez pas, c'est pas ça votre
jeu d'Obsidian, pas terrible
pas comme ça. Et c'est ça en fait, et pareil pour Disco Elysium, là plein de gens qui disent mais c'est quoi, là hier il y a quelqu'un qui m'a dit ouais tu parles beaucoup de Disco Elysium, je suis allé voir sur Steam, je comprends pas trop ce que c'est, et je lui ai dit que peut-être qu'il entendra parler bientôt, mais voilà, ces jeux là aussi c'est bien aussi de leur donner de la visibilité, parce qu'ils ont encore besoin justement d'avoir ce coup de lumière là, et c'est pas souvent dans fin du game finalement qu'on le fait, puisque on parle
oui,
des
non,
jeux
souvent,
vraiment
on arrive une fois que les
ça.
Jeux sont déjà très
exactement,
connus
exactement.
C'était un peu d'ailleurs le doute qu'on a pu ouais. Avoir quand on a choisi ce jeu là, parce qu'on s'est dit est-ce que c'est pas trop tôt,
ouais.
Tu vois, on va rater la GDC, on va rater la sortie sur Steam, la sortie PS4 c'est finalement très récent, mais là bon on va dire on a fait une petite entorse, parce que depuis qu'on a fait le jeu de toute façon depuis cet été on n'arrête pas d'en parler avec Hugo, et à chaque fois Max il est là mais me spoilez pas, t'avais qu'à le faire plus tôt, t'avais qu'à y jouer plus tôt, on te l'avait dit, mais du coup quand enfin on peut enfin en parler etc, c'est déjà libérateur,
ouais.
Et surtout ben si vous l'avez écouté, vous l'avez toujours pas fait alors qu'on vous avait dit de pas faire ça, donc ça c'est déjà pas bien, mais faites-le par vous-même, parce qu'il y aura quand même des choses que vous allez ressentir et que vous allez expérimenter avec la manette qu'on ne pourra pas vous expliquer, qu'on ne pourra pas retransmettre,
oui, puis ça se trouve,
donc il restera
an,
des choses à faire,
vous oubliez tout ce qu'on vous
oui,
a
oui,
raconté,
bien sûr.
Vous en foutez. Non mais oui je pense que
en train de faire votre sport là, ou dans votre bain.
Ben voilà, on a fait le tour, je crois.
Ben
voilà,
oui,
terminé ouais. d'une bien belle façon. On va recommencer l'année en 2020 d'une autre façon, d'une façon différente, mais ce sera quand même, je pense,
on va revenir un peu
façon.
Dans le passé. Voilà.
On va revenir un peu
teasing.
Dans le passé. Voilà. On a parlé vraiment d'un jeu qui cristallise beaucoup de choses modernes. Maintenant, on va s'intéresser à un autre jeu qui est un peu plus dans le passé, mais bon, on verra ça en janvier. On vous souhaite évidemment de passer...
En janvier, dans 3 semaines.
Dans 3 semaines,
oui,
ah oui, tout à fait.
Délai,
tu
oui,
fais
oui.
Bien de le signaler, Maxime. Merci, effectivement. On va d'ailleurs prendre nous aussi un petit break de toute façon pendant les fêtes, sachant que de toute façon, si on n'avait pas pris, il y en aurait eu 3 en janvier, j'imagine. Hein, ce sont ça les bails. Ou alors, on veut simplement se reposer, c'est peut-être possible, on a le droit.
On a le droit.
On
ouais.
A le droit
ouais.
Ok, ça marche.
Il y a Noël, il y a Nouvel An.
Voilà, profitez bien de vos familles, si vous êtes en famille et que ça vous fait plaisir. Si ça vous saoule, bah restez chez vous tranquillou.
Jouez à Outer Wilds.
Voilà, jouez à Outer Wilds.
Il y a plein de trucs à faire sympa.
Je pense que vous pouvez aussi rattraper tous les gros jeux qui sont sortis cette année, parce que bon, même moi, il y en a plein là que j'ai encore tout un petit stock de jeux sortis en 2019 sur lesquels j'ai vraiment envie de me pencher. Et puis, bah, merci de nous soutenir sur Patreon. C'est Noël. Et pensez-y aussi. Vous pouvez penser, ça peut faire plaisir.
On peut parler continuer à parler des petits jeux comme Outer Wilds. Hein.
Exactement. On remercie aussi Third Edition pour leur confiance, pour leur soutien. Allez voir leur page. Ça peut aussi être des beaux cadeaux, d'ailleurs. Hein, un petit livre comme ça, Third Edition, ça peut être cool. Si vous avez des camarades geekounets à offrir des petits cadeaux comme ça, ça peut faire plaisir. Moi, j'ai récupéré celui sur le prochain jeu. Et puis, bah, on se retrouve donc en janvier en 2020 pour un nouvel épisode de Fin du Game.
Salut.
Ciao.